Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Et ce soir, cette émission porte réellement bien son nom car je vais avoir le plaisir de vous faire découvrir, ou peut-être que vous le connaissez déjà depuis longtemps si vous avez lu les nombreux ouvrages qu'il a publiés dans plusieurs maisons d'édition, un véritable aventurier de l'étrange. Il s'appelle Éric Sablé. Éric Sablé, bonsoir.
Bonsoir.
Le vocable, le nom d'aventurier de l'étrange vous va bien, je trouve. Qu'en pensez-vous ?
Aventurier, c'est quand même peut-être un petit peu fort, mais l'étrange, je suis tout à fait d'accord. Oui, j'aime bien tout ce qui est étrange.
Aventurier dans le sens curieux, aller peut-être défricher des chemins où d'autres ne sont pas encore allés.
Oui, alors là, dans ce sens-là, effectivement, je me reconnais bien.
Voilà, donc vous êtes réellement un aventurier de l'étrange dans ce sens-là.
Oui, oui, là, à ce moment-là, effectivement, ça correspond bien à une impulsion fondamentale chez moi. Quoi,
une quête, une recherche.
Une quête, voilà, la quête, je crois, la quête du lointain, la quête, effectivement, de l'étrange aussi.
La quête de l'autre.
Quelque chose qui m'habite, et la quête de l'autre, et la rencontre avec l'autre aussi. Et c'est quelque chose qui m'habite profondément depuis toujours.
Ouais. Alors, ce soir, vous allez nous emmener dans une région aussi fascinante que mystérieuse, l'Inde et les pays limitrophes. C'est une partie de la planète que l'on ne peut pas comprendre si on ne prend pas en compte sa spiritualité, sa ou ses religions. En quoi consiste l'hindouisme, le taoïsme? Qu'est-ce que c'est que des notions comme le karma, la réincarnation? Qui sont ces personnages fascinants que sont les sadhus? Vous en avez rencontré il y a pas si longtemps que ça, puisque vous revenez du Tibet, hein? Vous êtes revenu d'Inde, pardon. Vous êtes revenu d'Inde il y a quoi?
Il y a quelques jours. Oui.
Il y a à peine quelques jours. Vous nous parlerez donc de ces expériences. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dans ce domaine et vous avez également un parcours de vie assez singulier, peu commun. Voilà, singulier dans le sens peu commun. Vous êtes un passionné, on en parlait tout à l'heure, d'astrophysique, d'ornithologie. Vous avez même publié deux livres sur les oiseaux aux éditions Zulma et Le Mercure Dauphinois.
Oui, c'est ça. Hein,
c'est ça. Donc, on va parler un petit peu de ces différentes facettes. Vous allez nous servir de guide durant ces 2 heures d'émission. On va vous suivre, Éric Sablé, dans votre cheminement et vous nous ferez part de ce que vous avez compris, découvert et des rencontres que vous avez faites tout au long de vos voyages et de ces textes que vous avez ramenés du pays si lointain pour nous les traduire et nous les confier à nous. Si vous-même vous avez envie, de réagir, de nous confier vos pensées, vos réactions, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 ou encore nous envoyer un SMS. Vous tapez sur votre portable le mot Sud. Vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200.
Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange.
En compagnie d'Éric Sablé, directeur de collection, auteur de plusieurs ouvrages que l'on va énumérer tout au long de cette soirée. Éric Sablé, première question que j'avais vraiment envie de vous poser, j'ai envie de faire découvrir à ceux et celles qui nous écoutent, votre personnage, vous venez d'où? Vous êtes né où?
Oh, je suis né
pour
en
avoir
France.
Un point de départ.
Oui, un point de départ, voilà, c'est le point d'origine.
Ouais.
Ben mon point d'origine se situe à Nice parce que j'ai ma mère qui a passé son enfance et son adolescence à Nice. Donc je suis né à Nice précisément, clinique du Belvédère en face de l'église orthodoxe.
Comme voilà. Presque tous les Niçois, je dirais. La clinique du Belvédère, c'est vraiment la clinique traditionnelle de Nice, non?
Hein? C'est possible, oui, oui, c'est possible. Et de temps en temps, effectivement, je retourne parce que j'ai un ami qui pense que lorsque l'on boucle un cycle dans sa vie, il faut revenir à son point d'origine. Donc de temps en temps dans ma vie, quand j'ai l'impression de boucler un cycle, ouais, eh bien, ouais. Je reviens à clinique du Belvédère. Donc je vais à ce lieu particulier. particulier.
Et qu'est-ce que vous y faites lors de ces retours fin de cycle? Quelque chose de particulier ou juste?
Ah non, non, aucun rituel particulier. Simplement, c'est le fait d'être là, voilà, d'être là, de cette impression de boucler justement une boucle, de boucler un cycle.
Ouais.
Et c'est une matérialisation en quelque sorte, voilà, et un acte magique.
En me baladant un petit peu dans vos ouvrages sur Internet pour vous découvrir avant de vous recevoir, je me suis aperçu que vous avez fait plusieurs métiers, vous avez un parcours de vie aussi riche que singulier. Qu'est-ce que vous avez fait comme différent? Vous avez été, par exemple, j'ai lu quelque part, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, ouvrier agricole, par exemple, dans notre Gers, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. J'ai été ouvrier agricole pendant une période de ma vie parce que je voulais vivre à la campagne, donc je ne voulais pas exercer un métier intellectuel. C'est quand j'étais beaucoup plus jeune.
Donc
j'avais quitté la ville, j'avais choisi de vivre à la campagne. Et pour vivre à la campagne, j'ai travaillé dans une ferme chez les Badors, qui étaient des gens très sympathiques d'ailleurs, j'ai commencé en faisant les vendanges et ensuite ils m'ont gardé comme ouvrier agricole.
Et qu'est-ce que vous y avez appris là, le contact avec la pépinière, la nature là?
C'était une pépinière en fait, j'ai appris à planter les arbres.
Mais profondément, je veux dire, qu'est-ce que ça vous a apporté?
Disons, il y a quelque chose de paisible dans ce contact avec la terre. Ça apporte une certaine paix, une certaine tranquillité. Voilà, c'est un petit peu, il y a une espèce de rapport profond avec la nature qui s'instaure par le fait que on la travaille, qu'on plante des arbres. Le rapport au temps est différent, le rapport à l'espace, voilà, le rapport aux arbres, le rapport aux plantes n'est pas le même, forcément, quand on a un rôle actif. Comme cela, moi ça m'a beaucoup apporté. C'était une période que je ne regrette pas. C'est un métier difficile, puis en même temps ça m'a permis d'avoir de très bons contacts avec tous les paysans du coin, parce que forcément j'étais l'ouvrier de chez Bador, donc j'étais pas un étranger complètement. Voilà, et si j'avais été un écrivain, j'aurais été beaucoup plus loin de leurs préoccupations. J'étais proche de leurs préoccupations et j'ai pu pénétrer tout un milieu que je connaissais très peu, notamment un milieu qui était à l'époque encore bien plongé dans la magie. Il y avait des livres qui ne brûlaient pas, on va raconter plein d'histoires le soir. C'était un milieu qui m'a beaucoup intéressé et des gens en plus de ça profondément sympathiques. J'ai beaucoup de sympathie pour les paysans du Gers que j'ai rencontrés.
Et qu'avez-vous fait comme autre métier avant d'être réellement catalogué avec le statut d'auteur, directeur de collection, spécialiste de la spiritualité orientale? C'est arrivé comment ça?
Ensuite, j'ai été charpentier, donc c'est encore un autre métier.
Complètement.
J'ai appris toujours pour vivre à la campagne, pour rester à la campagne. Donc, j'ai appris le métier de charpentier, qui est un métier aussi qui est encore plus difficile qu'ouvrier agricole. Surtout l'hiver, quand les bois sont gelés. Enfin, il y a tout un. Là, je veux dire que tant qu'on l'a pas pratiqué, on peut pas comprendre. On peut pas comprendre tout un monde, justement tout ce monde ouvrier dans le bâtiment, qui est un monde justement dur. Est un monde dur. Donc, j'ai fréquenté ce monde-là et j'ai été charpentier pendant quelques temps. Là aussi, j'ai appris le trait avec un compagnon, donc ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Oui, j'ai bien appris. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire des articles, tout en vivant dans le Gers d'ailleurs, toujours. Et j'ai commencé à écrire des articles pour une revue qui s'appelait Le Monde Inconnu. Je ne sais pas si vous avez...
Ça me dit quelque chose.
Oui, c'est une revue qui est complètement disparue, mais qui était distribuée par les NMPP, qui était quand même une revue assez sérieuse. Et sous le pseudonyme d'Antoine Kerlis, j'ai commencé à écrire des articles sur le symbolisme, sur différents sujets qui m'intéressaient, sur le bouddhisme déjà, voilà. J'avais déjà cet intérêt sur le bouddhisme, la spiritualité, l'ésotérisme. Et c'était mes premiers textes rémunérés. Voilà, j'ai commencé à toucher de l'argent. Ils me payaient pour ces articles que j'écrivais régulièrement.
Et ensuite, vous en êtes arrivé donc tout naturellement, je dirais, à un livre, deux, et après à vivre de votre plume.
Voilà, c'est ça. Mais ça s'est fait très progressivement.
J'imagine.
Ça s'est fait très progressivement. J'ai effectivement commencé à publier d'abord des livres sur, je crois, sur la pierre des sages. C'est un livre sur l'alchimie spirituelle qui est paru chez Dervy. Ça a été un de mes premiers ouvrages publiés. Et puis ensuite, voilà, ça a été une sorte d'engrenage bénéfique, on peut dire, qui m'a amené à publier de plus en plus de livres.
Ah, vous êtes extrêmement prolifique, ça, il faut l'admettre.
Ce sont des petits livres, oui, ce sont
certes, mais quand même, il y en a beaucoup. J'imagine que vous devez passer beaucoup de temps devant votre ordinateur, parce qu'on n'écrit guère plus à la plume et au papier, mon bon monsieur, c'est fini ça.
Ah si, là justement, si il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Et j'écris à la plume, j'ai des grands carnets que je remplis justement avec un stylo plume.
Ah oui ?
Ah oui, absolument, je ne peux pas écrire à l'ordinateur. L'ordinateur ne me sert qu'à recopier en quelque sorte.
D'accord.
Mais simplement, j'écris toujours à la plume et j'écrirai toujours à la plume, c'est certain.
Vous avez un rapport au papier et voilà. À l'encre et au stylo encore ?
Voilà, exactement. J'aime beaucoup. C'est comme une sorte de dessin. La calligraphie. Hein. La calligraphie est un art et c'est pas pour rien. Et j'aime bien calligraphier mes textes. J'aime bien justement les écrire, qu'ils prennent forme comme ça sous le maille. Il y a une espèce de sensation. C'est une espèce de sensation très particulière que ne donne pas l'ordinateur. Donc,
ouais.
Non, je n'écris pas du tout mes textes à l'ordinateur. Non.
Alors, tout à l'heure, on va faire une première pause. On ira se plonger dans cette partie de la planète qui est en même temps si lointaine et si fascinante pour les Occidentaux que nous sommes. On ne peut pas se rendre compte de cette vraie différence qu'il y a entre eux et nous et de ce qui nous rapproche également tant qu'on n'y est pas allé. Vous y êtes allé plusieurs fois. Vous allez nous faire part de votre expérience. Mais avant, une petite parenthèse, parce que je suis un fou furieux aussi des stylos et des calepins. Vous avez un stylo particulier. Vous avez votre objet particulier avec lequel vous écrivez, auquel vous tenez, le calepin. Dites donc que si on vous lâche dans une librairie, vous faites un malheur dans une papeterie, vous êtes là à fureter, vous regardez.
Ah oui, ça, vous avez tout à fait raison. Hein. C'est j'ai mon stylo particulier et puis pour le choisir, j'ai mis beaucoup de temps parce que il faut un stylo qui soit ni trop dur, ni trop mou, enfin qui soit juste ce qu'il faut, qui n'accroche pas le papier. Je suis un maniaque.
Bon poids dans la main, qu'on le sent
exactement,
bien en même temps.
Exactement. Tout à vous avez tout compris.
On a la même névrose.
Voilà. Il faut mon stylo particulier et que j'ai choisi avec soin. Ça, c'est vraiment. Ouais, et puis pareil pour le papier, c'est des grands blocs avec un quadrillage, des petits carreaux.
Ouais.
Et voilà, j'écris sur ces grands blocs que j'achète par 5 et que j'accumule.
Pareil, c'est pour ça que je me suis permis cette digression. On fait exactement la même chose.
Et voilà, même des névrose.
Éric Sablé, vous restez avec nous. Une première pause et on se retrouve. Alors là, vous allez nous faire prendre pied sur ce continent fascinant qui est l'Orient, très loin, et puis l'Inde. À ce moment-là, vous allez nous faire découvrir pourquoi est-ce que la spiritualité en Inde est aussi importante pour les hindous et les hindouistes, qu'il y a une différence entre les deux, j'imagine. Hein.
Les hindous, parce qu'il y a la différence est entre les indiens et les hindous.
Ah,
les indiens,
voilà.
C'est tous les habitants du continent indien.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils peuvent être musulmans, ils peuvent être farcis.
Comme les pakistanais, etc. Oui.
Voilà. Et puis, les hindous, c'est ceux qui sont de religion hindouiste.
Voilà. La différence.
La différence, elle est là.
Voilà. Très bien. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange.
En compagnie ce soir de l'auteur Éric Sablé, qui était également directeur de collection, à la volée quelques livres vous concernant, y compris un livre pour enfants d'ailleurs.
Deux
livres pour enfants, en parlera tout à l'heure, parce que c'est important cette transmission vers le jeune public à qui on peut livrer beaucoup plus qu'on ne pense d'ailleurs, que bien des adultes se disent « Oh non, ils vont pas tout comprendre ». Si, loin de là. Il y a une question de forme, mais c'est très intéressant. Donc, je cite quelques livres de vous que l'on peut trouver. Le plus récent, Anthologie sur l'illumination spirituelle, aux éditions Dervy, aux éditions Zulma, L'univers est un rêve. Ça, on en parlera de ce livre. Alors, votre passion concernant les oiseaux, l'ornithologie, la sagesse des oiseaux aux éditions Zulma, sagesse libertaire taoïste, ça c'est encore chez Dervy, chez Dervy encore les grands maîtres du haïku, vous nous expliquerez ce dont il s'agit également quand on reviendra là-dessus, et puis un ami pour la vie chez Bayard que vous avez écrit, des illustrations sont signées de Ginette Hoffman. Ça c'est enfants. De la pour livre pour enfants et le second celui que
c'est le vol du faucon qui est paru chez Milan, c'était chez Milan Presse à côté, voilà, c'est
oui, à Toulouse dans notre grand sud. Oui,
voilà, exactement, oui.
Et qu'on peut encore trouver?
Non, malheureusement, il est épuisé. Ouais. Non, il est épuisé, donc il parlait éventuellement de le réimprimer, mais pour le moment, je n'en sais rien.
Bon. Alors, emmenez-nous dans avec vous, on va prendre pied en Inde. Est-ce qu'il est exact de dire qu'on ne peut pas comprendre le monde indien si on ne comprend pas sa spiritualité? C'est intimement lié.
Oui, je crois que c'est vrai, parce que l'Inde, c'est un pays qui est encore très religieux. C'est-à-dire que en débarquant en Inde, on prend conscience de ce qu'est un pays religieux. Nous ne vivons plus dans un pays religieux. Lorsque l'on est en Inde, c'est complètement différent. Le rapport à la religion est complètement différent. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette religion se manifeste aussi bien sous des aspects les plus kitsch, c'est-à-dire qu'il y a par exemple des divinités en plastique qui tournent la tête avec des lotus qui s'ouvrent et qui projettent de l'eau, avec, tout ça avec une musique infernale. c'est vraiment complètement surréaliste. Ouais, et ouais. On peut passer brusquement dans les aspects les plus métaphysiques de cette même religion hindoue. Voilà. Donc, on a tous les aspects qui nous sont, en quelque sorte, projetés, qui ne sont, qui sont mis en avant. Voilà. Mais il y a, ça, c'est une dimension fondamentale, je crois, de l'âme indienne, la religion.
Ouais. Mais leur religion, pour faire un parallèle avec la religion chrétienne, qui est la religion de la majorité des Occidentaux, avec maintenant la religion musulmane, mais qui est plus tardive historiquement. La religion, alors on dit comment? Hindouiste, bouddhiste, on dit...
On peut dire hindou aussi, hindouiste.
Oui. Hindouiste. La religion hindoue date de quand à peu près, historiquement, pour la comparer par rapport à la religion catholique, par exemple?
Ouais, elle est très chrétienne, elle est très ancienne et elle est composée sur tout ce qui est important de comprendre, c'est que la religion hindou est composé de strates. C'est pas une religion qui s'est formée comme d'un coup comme le christianisme.
C'est pas une religion révélée qui est arrivée.
Pas du tout. Point. Voilà. Pas du tout. Voilà, c'est ça la grosse différence déjà. Le christianisme, il est né à une certaine époque précise. Même si on n'arrive pas vraiment à situer cette époque-là, c'est quand même une époque précise avec le Christ.
Voilà. Tout à fait.
La religion hindoue, pas du tout. Elle est composée d'abord d'une première strate qui sont les peuples qu'on appelle dravidiens, c'est-à-dire les peuples qui occupaient l'Inde avant les invasions indo-ariennes. Ouais. C'est-à-dire c'est des peuples qui avaient une religion de la mer. Qui plaçait au-dessus de tout le prêtre, c'est-à-dire qu'il y avait une domination du prêtre et qui étaient des gens extrêmement civilisés. Contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, les Indo-Européens étaient beaucoup moins civilisés que ces peuples dravidiens qui occupaient l'Inde à cette époque-là.
Ouais. Là, dans l'histoire, on est à quelle période?
Ça, c'est quelques milliers d'années avant Jésus-Christ.
Ah oui, quand même.
C'est l'époque à peu près des dravidiens, c'est à peu près l'époque de Sumer. C'est l'époque des c'est à peu près la même époque d'après des mais tout ça c'est allé sur des milliers d'années donc c'est extrêmement long hein mais ça correspondait à peu près au mégalithe enfin à toutes ces époques là aux sumériens il y a eu une espèce de civilisation un peu semblable qui était répandue sur toute une partie de la terre quoi avec la civilisation sumérienne le dravidien et en Crète aussi il y avait une civilisation un petit peu équivalente quoi voilà.
Alors c'est le
fond, le background en quelque sorte. C'est le background de l'Inde qui ressurgit régulièrement, c'est-à-dire certains disent que précisément le yoga, le tantra, tout ça, toutes ces disciplines que nous on associe à l'Inde viennent de ce fond-là.
Voilà. Prennent leurs racines.
Leurs racines justement dans ces peuples dravidiens. Et ensuite sont venues des invasions qui sont faites en plusieurs étapes. Certains disent que ce n'est pas vraiment des invasions, mais enfin quand même, il y a eu différentes étapes où petit à petit, les Indo-Européens se sont installés dans la péninsule indienne. Et eux, ils avaient une religion complètement différente, qui était la religion que l'on dit védique, c'est-à-dire c'est une religion très ritualisée. Il y avait beaucoup de rituels, et ils étaient, disons, du point de vue morphologique, du point de vue racial, très différents. Alors que les Dravidiens étaient très bruns, très noirs, avec les cheveux raides, eux, ils étaient beaucoup plus pâles, beaucoup plus clairs. Ils avaient un teint beaucoup plus clair. C'était des Indo-Européens. Voilà. Ouais. C'était un petit peu exactement comme les Iraniens, les Celtes après, enfin, etc.
Ouais.
Et donc il y a eu un mélange entre petit à petit le fond justement dravidien a assimilé comme ça ces cultures indo-européennes étrangères en quelque sorte et elles ont commencé par imprégner et c'est cette espèce de mélange entre ces deux cultures qui a progressivement donné ce que l'on appelle l'hindouisme. Voilà.
Et ce qui est étonnant, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'hindouisme est la rencontre entre l'Occident et l'Orient, finalement.
Ah, on peut voir ça comme ça.
À cette époque-là.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire
que c'est allé chez eux pour revenir bien des siècles, bien des millénaires plus tard, chez nous.
Tout à fait. On peut dire qu'effectivement, ces peuples indo-européens qui venaient d'une région du Caucase étaient certainement les mêmes que ceux qui nous ont qui ont envahi l'Europe à cette époque-là.
Oui, tout à fait. Et qui ont donné après naissance à différentes cultures.
Alors effectivement.
Donc c'est à peu près au moment où ces deux civilisations se sont fondues l'une dans l'autre. J'imagine avec plus ou moins de chaos, plus ou moins d'harmonie, plus ou moins de bonheur, de malheur, comme toujours.
Bien sûr.
Mais ça donnait naissance à l'hindouisme. À partir de là
est né l'hindouisme, qui est donc déjà à la base une religion assez syncrétique et qui est une religion qui est polythéiste. Et donc, ça c'est très important de le dire, une religion très ouverte, assez tolérante, puisque une religion polythéiste est toujours plus tolérante qu'une religion monothéiste, a priori, puisque chacun a son dieu. C'est-à-dire que, par exemple...
On a une affinité vers un dieu ou l'autre.
Voilà, exactement. Ouais. Par exemple, j'ai rencontré des moines errants, ces fameux sadhus. Il y en a qui ont une affinité avec Shiva, eh bien aussitôt ils sont des adorateurs de Shiva. Mais s'ils ont une affinité avec Vishnu, ils sont des adorateurs du dieu Vishnu ou de telle ou telle forme du dieu Vishnu ou de telle ou telle forme du dieu Shiva. Voilà, c'est vraiment on choisit son dieu en fonction de ses affinités, en fonction de sa famille, en fonction de critères justement intimes en quelque sorte. Ouais. Donc quand le christianisme est arrivé, bon, il a été accepté puisque le Christ, il était considéré comme aussi
comme
Krishna,
un dieu supplémentaire.
Comme un dieu supplémentaire. Les chrétiens n'étaient pas d'accord du tout. Ils disaient non, c'est le nôtre, il est le meilleur. Et les hindous, ils disaient mais ça les gênait pas du tout. Ils disaient mais oui, mais pas de problème.
Gardez-le.
Et d'ailleurs, les grands maîtres hindous souvent citent des paroles de l'évangile, comme ils citent la Gita, comme ils citent les Upanishads, parce que justement, le christianisme est parfaitement intégré à l'hindouisme. Ouais. Ça, c'est le Christ est considéré comme un grand éveillé, comme un grand maître, au même titre que d'autres, même comme un avatar, c'est-à-dire une incarnation du divin, même titre que Krishna ou le Madhya Avatara, enfin, etc. Voilà, c'est un peu. Et il y a quelque chose à propos du christianisme qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait une forme de christianisme en Inde antérieure à la venue des Portugais. C'est-à-dire, on rattachait ce christianisme-là à saint Thomas, qui serait venu évangéliser l'Inde. Et effectivement, quand les Portugais sont arrivés en Inde, il y avait des chrétiens. Il y avait des chrétiens, donc ça c'est assez mystérieux. Il y avait des chrétiens,
c'est très étonnant ça.
Oui, des chrétiens qui se réclamaient justement de saint Thomas. Enfin,
Donc une chapelle chrétienne primitive en plus, j'imagine.
Voilà, c'est ça. Donc c'est assez étonnant. Il y avait vraiment qui après bon se sont fondus. Avec il y avait effectivement un christianisme.
Alors citez-nous les dieux importants du paysage religieux hindouiste. Vous avez cité Vishnu, Shiva, et leurs spécificités les plus importantes, ceux qu'on connaît le
plus. Ça c'est évidemment les dieux. Il y en a des milliers.
Donc, tant que ça.
Il y a des milliers de dieux, puisque à la limite, il y a des dieux, les dieux des sources par exemple, les dieux des arbres. Très souvent, par exemple, quand on va en Inde, et ça c'est très très beau, il y a des arbres qui sont particulièrement grands, qui sont magnifiques, des arbres magnifiques, qui sont entourés avec des ficelles blanches ou rouges. Ouais. Et au pied de l'arbre, il y a justement un dieu qui est adoré, une petite cellule qui est ménagé, et il y a une statue du dieu. Le dieu est adoré justement au pied de l'arbre parce que il y a une espèce de lien entre la divinité de l'arbre et puis ce dieu particulier, quoi. Voilà. Et ça, c'est très beau. On voit ça un petit peu partout en Inde, quoi. Ça,
ouais. Mais quand vous dites dieu, est-ce que on peut pas faire dire que c'est un synonyme des djinns, par exemple dans l'islam, c'est-à-dire l'esprit, ou chez les Celtes la fée de la source, ou vous voyez, c'est pas un dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, etc. Mais c'est non, on peut pas faire un parallèle.
Il y a tout. Il y a
tout. Enfin, bon monsieur,
il y a tout. De toute façon, en Inde, il y a tout ce que vous voulez. Donc c'est la grande synthèse. Donc il y a pas de problème. Il y a effectivement un dieu suprême. Il y a un dieu suprême que dans le Yoga Sutra, par exemple, on appelle Ishvara. Ishvara, on dit, c'est le dieu suprême qui est très, très équivalent au dieu des chrétiens, qui est vraiment pareil, qui a révélé les écritures.
Le dieu créateur, en fait, quoi,
c'est. Qui est Ishvara, c'est un dieu suprême qui est au-delà des autres dieux, on dit. D'accord, dans les Yoga Sutras, hein. Sinon, il y a effectivement des petits dieux locaux, des dieux des montagnes, des dieux des rivières, des sources, des arbres, etc. Et puis, il y a des dieux aussi qui appartiennent à la mythologie de l'hindouisme. Alors évidemment, les trois grands, c'est Brahma, le dieu, on dit le créateur, Vishnu, celui qui préserve la création, et Shiva, celui qui est chargé de détruire la création. Voilà, parce que ça, c'est une particularité de l'hindouisme qui est assez, qui peut nous surprendre. C'est-à-dire que le mal, ce que nous appelons le mal, n'est pas du tout rejeté, il est divinisé, c'est-à-dire qu'il a aussi son dieu. C'est-à-dire que, par exemple, les voleurs, ils forment une sorte de caste, et ils ont leur divinité eux aussi. C'est-à-dire que tous les aspects, aussi bien les meilleurs comme les pires, ont tous leur divinité. Et c'est pour ça qu'il y a des dieux aussi étonnants que Kali, par exemple, qui est quand même une divinité terrible, mais qui est adorée. Il y a des hymnes extraordinaires à Kali, justement. Elle est adorée, bien qu'elle représente un aspect que nous pourrions qualifier de démoniaque.
Oui, tout à fait. Oui.
Alors que pas du tout. Pas du tout. Pour eux, c'est une divinité. C'est-à-dire que tous les aspects de la vie doivent être divinisés, doivent être représentés par des dieux. Voilà. Donc, il n'y a pas simplement un dieu bon et puis son contraire, le diable qui est mauvais, qu'il faut éviter, il faut rejeter. Non. Tout est divinisé.
Les deux sont à égalité, quoi, finalement.
Non, c'est pas à égalité, mais oui, ils sont tous représentés. Oui, dans un sens, oui, on peut dire que c'est à la limite, oui, à la limite, oui. Là, c'est-à-dire que l'aspect destruction de la vie est lui aussi divinisé. Il a lui aussi droit à ses dieux.
Parce que ça participe de l'équilibre.
Parce que ça participe de l'équilibre général de la vie. Voilà. Et il y a des dieux de la guerre, par exemple, effrayants, des dieux tibétains de la guerre qui sont effrayants, mais il y a le cinquième Dalai Lama, il a écrit des hymnes magnifiques justement à ce dieu de la guerre, quoi. Donc ça peut nous surprendre, alors que c'est un dieu qui est épouvantable, qui est vraiment, quand on le voit représenté, on dit c'est un démon. Non, pas du tout. C'est quelqu'un justement qui protège aussi, c'est-à-dire que on dit que on a besoin de cette protection justement de ces dieux qui nous apparaissent à nous occidentaux noirs.
Ouais.
Et très souvent, par exemple, Durga est une déesse qui est extrêmement
Durga,
c'est une déesse, c'est un peu l'équivalent de Shiva. On la représente assise sur un tigre avec un sabre dans la main, et elle pourfend justement le démon. Et c'est une divinité terrible, et elle est vraiment adorée par beaucoup d'hindous, quoi, par beaucoup d'hindous. Beaucoup d'hindous ont une petite représentation de Durga sur eux, ou alors ils la représentent sur leur camion. Ou sur la voiture, enfin, etc. Parce qu'elle représente justement un aspect terrible de la vie, mais un
protecteur
aspect
également.
Protecteur en même temps, ça les protège.
Ouais. Voilà, Éric Sablé, une pause et on se retrouve dans quelques instants avec vous pour essayer de comprendre différentes facettes de cette spiritualité que l'on connaît mais qui est sûrement, dont on a une image sûrement dévoyée, qui passe à travers le prisme des médias, à travers le prisme de ceux qui ramènent une information. Donc forcément, c'est pas l'information d'origine, et vous nous servirez de guide pour nous emmener à la découverte de cet univers si fascinant. Les aventuriers de l'étrange continuent avec Éric Sablé dans quelques instants.
Sud Radio, Louis Bénédit, des aventuriers de l'étrange.
Les noms de dieux lointains résonnent dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio ce soir. Brahman, Vishnu, Shiva, Kali et d'autres dieux, avec Éric Sablé, auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et directeur de collection. Éric Sablé, tout à l'heure, vous nous avez situé un petit peu les différents dieux et le rapport qu'a l'hindou avec ses différentes religions. Et pendant cet espace de temps où on n'a pas été à l'antenne, on continuait à discuter. Et je vous disais, mais est-ce qu'un moine qui se réclame, enfin qui adore ou qui a une vénération, une inclinaison, comme on disait au XVIIIe siècle, vers Kali, qui est quand même une déesse très particulière, sombre, dangereuse, le revendique à l'extérieur?
Oui, tout à fait.
De manière ostentatoire, quoi. Quand il arrive, on sait que, oula, c'est bon.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il le revendique, et non seulement il le revendique, mais il le marque par des bijoux particuliers, par un habillement particulier. C'est-à-dire que la première chose que remarque un hindou lorsqu'il se promène dans la rue, c'est précisément l'appartenance à telle religion ou à tel culte d'un autre hindou.
Le mot culte est tout à fait juste. Oui, c'est ça.
Donc ça, c'est très important. Donc il le marque tout de suite. Par exemple, un sadhu, un moine, donc.
Un sadhu, c'est un moine.
Un moine errant, en quelque sorte. Un moine, oui, dans un sens très particulier de l'Inde, hein, qui sont un petit peu différents du sens où on l'entend, mais enfin, c'est des gens qui sont en quelque sorte en dehors du système social. Ouais. C'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que n'importe qui, à n'importe quelle période de sa vie, s'il en éprouve la vocation, il peut couper complètement toute relation avec la société et devenir un moine errant, voilà, et devenir un moine, un sadhu.
Et ça signifie quoi? Entre guillemets, le cahier des charges, c'est quoi?
C'est-à-dire qu'il est mort au monde. Théoriquement,
il est mort au monde.
Il est mort au monde. Il est mort au monde, c'est-à-dire qu'il n'existe plus pour la société. Donc, ils se regroupent entre eux, mais pour la société, ils n'existent plus.
Papier, impôts, tout ça, c'est...
Tout ça, c'est fini. Tout est fini. Fini.
Ouais,
tout
ouais.
est fini.
Ouais.
C'est-à-dire que tout est complètement... C'est-à-dire que tous les hindous ont à chaque instant la possibilité, à chaque instant de leur vie, la possibilité de devenir sadhu, c'est-à-dire
de s'extraire de la société, vraiment.
De s'extraire complètement de la société et de rompre, en quelque sorte, avec toutes les obligations sociales et de rentrer complètement dans un autre univers, en quelque sorte, l'univers des sadhus.
Ouais. Et ça, en toute légalité, entre guillemets, parce que...
En toute légalité, ça, il n'y a aucun problème.
Ça,
oui. Ah oui. Et même, on a ce qu'on appelle dans l'hindouisme les quatre ashramas, c'est-à-dire les quatre stades de la vie. Chez les brahmanes, avant, dans l'hindouisme traditionnel.
Les brahmanes qui est la caste supérieure.
La caste des prêtres,
voilà.
Oui, c'est ça.
Ouais,
chez
ouais.
Les hindous, en quelque sorte, les prêtres.
Ouais.
Il y avait une première période dans la vie où on était ce qu'on appelait brahmacharya, c'est-à-dire qu'on étudiait auprès de son gourou, de son maître.
Ouais.
La deuxième période, on était père de famille. C'est-à-dire qu'on devait faire des enfants et avoir une position sociale.
Ouais.
La troisième période, on se retirait dans une grotte ou dans une cabane avec sa femme souvent, et en quelque sorte, on commençait déjà à se retirer du monde. Et le quatrième ashrama, là, on célébrait ses propres funérailles, c'est-à-dire que c'était comme si on était mort au monde, et puis on n'appartenait plus à la société. C'est-à-dire qu'un sadhu, quand il meurt, il n'y a plus de funérailles, parce que de toute façon, il est déjà mort. On considère qu'il est déjà mort, que ses funérailles ont déjà eu lieu. Donc, on devenait un sadhu, et donc on pouvait entreprendre des pèlerinages, notamment, et on vivait dans un système, en quelque sorte, qui est complètement parallèle au système indien, au système de la société indienne.
Ouais, ouais, ouais. Voilà. On vit de l'aumône, on vit de...
Alors voilà, les vrais sadhus ne mendient pas, mais si on leur donne quelque chose, ils acceptent.
Ouais.
Ils acceptent, et ils sont, en principe, ils doivent mendier la nourriture du jour. Enfin, j'ai assisté comme ça à la distribution de la nourriture par des indiens pieux qui donnaient la nourriture aux sadhus, quoi.
Voilà, ouais.
C'était
ouais, ouais.
considéré comme une source de grands bénéfices pour celui qui donne. Donc, les hindous aiment bien donner justement à manger à ces moines.
Ouais, 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 ouais.
Voilà.
Alors, ça, c'était. On va y revenir de toute façon parce qu'il y a différentes types. Vous m'avez dit différents chemins de sadhus qu'empruntent les sadhus,
voilà,
etc.
Différent, oui,
donc
oui,
ça,
oui.
C'est assez particulier. D'ailleurs, lors de votre dernier périple en Inde, vous en avez rencontré. Vous avez
oui.
discuté avec plusieurs d'entre eux. On y reviendra. Mais revenons au signe distinctif que porte un hindou pour dire voilà, j'appartiens à tel culte. Que ce
oui.
soit Shiva, Vishnu, Brahman ou Kali, enfin je veux dire même des cultes durs, enfin qui ici vu de l'Occident, je veux dire, c'est des satanistes ou pas loin quoi pour nous.
Oui, la première chose que voit un hindou ou un indien plutôt, c'est toujours l'appartenance, oui. l'appartenance. Mmh, mmh. Et ça, ça se marque par des choses très précises. Par exemple, quand j'étais dans le sud de l'Inde l'année dernière, je m'étais amusé à porter un foulard parce qu'il faisait très chaud et j'avais, je m'étais amusé à attacher une sorte de foulard, un mouchoir, quoi, comme ils le font certains, mmh. un mouchoir sur la tête. Et aussitôt, on me considérait comme un musulman. Parce que c'est les musulmans qui s'attachent un mouchoir sur ouais. la tête. D'accord. Et ce ne sont jamais les hindous.
D'accord.
Donc aussitôt, on considère. Ouais. Par exemple, à un moment donné, j'ai porté un mala.
C'est quoi un mala?
Un mala, c'est un chapelet, une sorte de chapelet que l'on peut se mettre autour du cou.
Ouais.
Et aussitôt, j'étais un hindou. Donc, on me posait des questions. Les brahmanes que je croisais venaient me voir. Ils me posaient des questions sur mes pratiques spirituelles, etc. Voilà. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que dans le sud de l'Inde, notamment dans le Kerala, qui est un pays qui a été très communiste, le communisme est une école, une secte comme une autre. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est communiste, on le marque, on met un drapeau rouge devant sa maison. Et j'ai assisté comme ça, on se balade dans la campagne et on voit une maison avec un drapeau rouge ou avec un bas-relief qui représente une faucille à marteau. Alors c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une appartenance quasiment de caste comme une autre. C'est considéré comme une religion. Donc on peut être musulman, on peut être hindouiste, on peut être communiste ou on peut être parsi. Par exemple,
Parsi,
chrétiens. Parsi, c'est les adorateurs du feu qui ont été pourchassés par les musulmans et qui sont venus vivre à Bombay, notamment. Ils sont arrivés au 8e siècle. Il y a eu une première vague au 8e siècle. Ils sont arrivés avec les invasions musulmanes et qui se sont installés à Bombay. Les plus grosses fortunes de Bombay, ce sont des Parsis. Notamment Tata, le fameux Tata qui est toutes les voitures sont des voitures évidemment Tata, et eh bien c'est un Parsi.
Donc, ouais. Ouais.
C'est des grosses fortunes et ils ont la particularité d'avoir des adorateurs du feu d'abord et ensuite d'avoir ce que l'on appelle des tours de silence, c'est-à-dire à Bombay on peut les voir, c'est des tours sur lesquelles ils mettent leurs cadavres parce que les cadavres ne sont ni brûlés ni enterrés, ils sont mis sur ces tours du silence et il y a des vautours qui viennent dévorer les cadavres des Parsis comme ça.
Ouais.
Et ça a posé d'ailleurs des problèmes avec l'entourage, avec l'environnement, puisque il y avait parfois des vautours qui laissaient tomber un morceau humain comme ça sur une terrasse avec des gens en train de manger. Ça faisait un peu désordre.
J'imagine. Mais alors, quels sont les autres signes distinctifs un sadhu, par exemple, à quoi est-ce que l'on reconnaît qu'il appartient à tel culte ou à tel autre sadhu? Donc, je rappelle, les moines errants.
Voilà. Alors, par exemple, les deux grandes divisions, c'est les sadhus shivaïstes. C'est-à-dire qui appartiennent à ce grand yogi qui est Shiva, donc ce dieu de la destruction. Pourquoi le dieu de la destruction est le dieu justement des sadhus, plus particulièrement parce que c'est celui qui dissout l'univers. Donc, et le sadhu, son but finalement, c'est de dissoudre son moi, de dissoudre justement le monde extérieur.
Ouais.
Voilà, pour trouver sa
pour
réalité.
Pour se fondre dans le tout.
Voilà,
ou
pour réaliser sa nature en quelque sorte véritable.
Ouais, ouais.
Alors les sadhus shivaïstes, on les reconnaît parce que par exemple, ils portent du fer. Alors ils ont des bagues en fer. Ils ont par exemple parfois des chaînes qui s'accrochent comme ça, un peu comme les punks.
Ouais.
S'accrochent. D'ailleurs, ils sont parfois déguisés de façon extravagante. J'ai des photos de sadhus shivaïstes. Ils sont extraordinaires. Ils sont très libres. Les sadhus shivaïstes sont très très libres. Ils ont aucun préjugé. Ils ont vraiment. C'est pour ça qu'ils parlent facilement avec vous. Ils ont aucun préjugé. J'en ai vu un qui montait sur les épaules de son gourou, de son maître. Un autre, pendant que je le prenais en photo, il y en avait un deuxième, un de ses copains qui se cachait derrière et qui faisait des singeries comme ça. Ils sont très marrants et ils sont le premier contact que j'ai eu avec un sadhu shivaïste, j'étais en train de regarder comme ça, j'étais penché en avant et sans doute j'avais l'air un peu ridicule en train de regarder une vieille image de Durga et soudain j'ai senti quelqu'un qui me poussait comme ça et je me retourne et je vois un vieux sadhu shivaïste avec ils ont les tresses des cheveux qui sont enchevêtrés au-dessus du crâne un peu comme les rastas mais en beaucoup plus long, plus fourni, plus volumineux.
Oui.
C'est le plus rasta des rastas n'oserait imaginer une telle coiffure. Quoi. C'est fabuleux. Ils ont des cheveux qui leur tombent jusqu'aux pieds. Quoi.
Alors, ça fait partie de leur...
Oui, ça fait partie de leur discipline. Ils coupent pas leurs cheveux et ils les enroulent comme ça au-dessus du crâne.
D'accord. Voilà. Et donc, ce vieux sadhu vous pousse comme une plaisanterie de gamin.
Voilà, finalement. Comme une plaisanterie de gamin. Et puis, du coup, on a commencé à discuter et ça a été mon premier contact avec justement ces sadhus shivaïstes. Donc c'est pour dire cette espèce d'extrême liberté dans laquelle ils se trouvent. Alors eux, donc, ils portent du fer pour se reconnaître, et ils portent aussi un mala, donc un chapelet autour du cou, ou un chapelet noir, ou alors un chapelet en cristal, voilà, ou les deux. Voilà, ça c'est, on les reconnaît à ça. Et alors maintenant, il y a évidemment beaucoup de subdivisions dans ces sadhus shivaïstes. Il y a depuis les sadhus, par exemple, ce qu'on appelle les naga baba, les naga baba, ceux qui sont tout nus. Alors ils sont tout nus ou ils ont juste un petit, une sorte de slip indien, de cache-sexe. Et ils sont couverts de cendres, c'est-à-dire pour montrer qu'ils sont morts au monde, ils se recouvrent de cendres comme ça. Et il y a les aussi.
On les voit souvent en photo ou à la télé en certains films, parce que ce sont peut-être ceux qui impressionnent plus finalement.
Voilà, et les plus extrémistes sont les Agori Baba. Alors ça, c'est quelque chose qui est peu connu en Occident. C'est des gens qui vivent des yogis tantriques, donc c'est des shivaïstes extrémistes qui vivent dans les champs de crémation, qui boivent.
Les champs de crémation,
c'est-à-dire là où on brûle les morts, là où l'on brûle les morts, et ils se nourrissent, ils se servent pour boire de crânes humains, et ils se nourrissent de la chair des cadavres. C'est-à-dire qu'ils attendent que les gens soient partis, et à ce moment-là, ils ont le droit de manger les cadavres. Et j'ai notamment une personne qui a raconté que elle a rencontré comme ça des Agori Baba. Elle a dit qu'elle avait jamais vu des hommes avec les yeux rouges, et pour la première fois elle avait vu des hommes avec les yeux rouges. Donc c'est des choses qui nous semblent complètement effrayants, aberrants dans notre c'est impensable en France. Quelqu'un qui se nourrirait dans les champs de crémation, dans les cimetières, pour nous ça serait quelque chose d'impossible
et de condamnable surtout.
Et surtout de condamnable.
Pas du tout.
Alors qu'en Inde, pas du tout. L'Inde justement est à ce niveau-là d'une extrême tolérance. C'est-à-dire que toutes ces extravagances, tout ce qui nous semble des extravagances, sont non seulement tolérées mais tout à fait acceptées
et même tabou. Je veux dire, manger la chair de nos morts.
Voilà. Ça nous paraît énorme,
c'est un tabou extrême.
Énorme. Et alors, par exemple, il y a une autre chose qui nous semble aussi étonnante, c'est que théoriquement, le hashish, le cannabis, est interdit en Inde. Mais tous les sadhus shivaïstes quasiment fument du hashish.
Ouais.
Donc, c'est interdit et en même temps, c'est pas interdit. Voilà, là encore, c'est interdit pour certains, mais pas interdit pour d'autres. Donc là aussi, c'est quelque chose qui, avec nos idées égalitaires, nous semble complètement aberrant. Mais pour l'Indien, non. Il comprend très bien que des choses soient permises pour certains et soient interdites pour d'autres.
Tout à fait. Ça ne le gêne pas. Ça fait partie de sa culture.
Pas du tout. Ça fait partie de sa culture et ça ne le gêne absolument pas. Donc, ça donne une extrême tolérance, une société extrêmement tolérante qui a accepté quand même beaucoup de musulmans, qui a accepté les chrétiens, qui a accueilli les farcis, donc c'est quand même l'histoire prouve que la société indienne est une des plus tolérantes.
Oui. Cela étant, on connaît, on y reviendra tout à l'heure, le problème que posent les castes, notamment celles concernant les intouchables. Et là, est-ce qu'on atteint les limites de la tolérance, ou ça fait partie de cette culture que nous on peut pas appréhender parce que nous ne sommes pas ni indiens ni hindous, donc c'est difficile pour nous d'avoir le cerveau construit comme eux l'ont, de même que eux doivent nous regarder avec une espèce d'interrogation, de curiosité. On est exotique pour eux également. Vous avez parlé des sadhus concernant Shiva, mais il y a d'autres sadhus, j'imagine, d'autres cultes.
Tout à fait. Alors ça, c'est les sadhus en quelque sorte les plus extravagants, les plus libres, et les plus aussi ouvert, mais aussi les sadhus vishnouistes en quelque sorte, qui eux se reconnaissent aussi à certains signes. Ils ont une robe par exemple orange, souvent ils ont des bagues en cuivre, pas du tout en fer mais en cuivre. Ils ont des malas de couleurs différentes, ils ont des malas en bois de santal par exemple, donc ils ont eux aussi, puis ils ont des signes aussi sur le front, des marques différentes. Les sadhus shivaïs souvent ont des traits horizontaux, alors que les vishnouis ont des traits verticaux souvent. Voilà.
D'accord.
Donc ils ont des marques aussi, et puis là encore, chaque école a ses marques particulières.
Ouais. Est-ce qu'il y a une hiérarchie maintenant entre, excusez-moi, je vais sûrement dire une bêtise, mais l'apprenti sadhu et le maître sadhu? Est-ce qu'il y a une hiérarchie qui est reconnue ou pas?
Oui, tout à fait. Il y a une hiérarchie parce qu'il y a des novices, il y a les sadhus novices, et puis il y a des sadhus, il y a les grands maîtres sadhus aussi. Ils sont souvent constitués d'ailleurs des petits groupes autour d'un maître. Voilà. C'est des maîtres qui sont très libres. C'est pas des maîtres au sens où on pourrait nous l'entendre. Mais il y a toujours un maître, il y a toujours des élèves, il y a toujours des novices.
Il y a des noms qui sont rentrés dans la légende, j'imagine. Des grands sadhus qui ont marqué de leur empreinte.
Il y a Ramanuja, enfin les grands fondateurs.
Est-ce qu'ils laissent des écrits, ces gens-là?
Ceux que j'ai rencontrés, non, parce que déjà, ils parlent très peu anglais. Et c'est des gens qui n'écrivent pas du tout. Non, non, ils n'écrivent pas. Mais ceci dit, il y en a eu qui ont écrit. Mais sinon, la majorité des sadhus, c'est des gens qui s'occupent pas du tout d'écrire. Ils sont morts au monde, hein, donc ils ne s'occupent pas tellement du monde. Donc ils ne s'en occupent pas trop.
Il faut bien comprendre ça. Voilà, et une fois qu'ils sont morts au monde, est-ce définitif ou est-ce qu'ils peuvent revenir? Ou ça n'est pas concevable, ça n'est pas dans leur conception.
En général, ils reviennent pas. Non, en général, c'est fini.
Ouais.
En général, c'est fini. Je sais pas. Il faudrait des statistiques, hein. Non, parce que
Mais dans la philosophie, je veux dire.
D'après ceux que j'ai rencontrés, non, c'est définitif. C'est quelque chose de mûrement pesé ou c'est suite à une grande douleur, ça peut être aussi.
Ouais.
Hein,
Mais
il faudrait des statistiques. Mais je n'ai pas entendu parler de sadhus qui soient
de renaissance entre guillemets à la société.
À la société, oui. En général, non, ils sont.
Une fois que c'est fait, c'est fait.
Voilà, c'est ça. Ils vivent en dehors de la société. Tout à fait.
Éric Sablé, vous restez avec nous une pause et on se retrouve dans quelques instants pour continuer avec vous ce passionnant voyage au sein de la spiritualité hindoue aussi diverse que fascinante. À tout de suite.
Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange.
En compagnie de l'auteur Éric Sablé dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, qui depuis un petit peu plus de trois quarts d'heure maintenant nous emmène sur ses pas, nous emmène visiter une région fascinante, l'Inde. Une question avant de parler encore de la spiritualité chez eux et des différents messages que cela suppose. Qu'avez-vous ressenti? Parce qu'il paraît que la première fois que l'on va en Inde, on peut prendre, comme on dit trivialement, on prend une claque, vraiment. Parce que c'est tellement différent, le fait de voir des échelles de valeurs complètement différentes, voir des gens mourir sur le trottoir, on prend une vraie claque.
Ah oui, l'Inde est un pays terrifiant, c'est-à-dire que...
Terrifiant, c'est terrifiant, le mot.
C'est vraiment le mot, c'est vraiment qui convient, parce que là, j'étais à Delhi notamment, heureusement après on sort de Delhi, mais Delhi est une ville qui est complètement effrayante. Je veux dire que lorsque je suis arrivé à Delhi, justement je revenais des montagnes de l'Himalaya, j'avais vraiment l'impression de rentrer dans un cauchemar, quoi. Il y avait des banlieues, mais des banlieues avec des maisons qui sont en grande partie détruites, avec des gens qui vivent dedans, ils vivent dans des espèces de tentes, mais qui sont des planches en bois sur lesquelles on a cloué vaguement des toiles comme ça, des plastiques.
Ouais.
Des plastiques. Il y a des montagnes d'ordures, comme ça, c'est pas du tout une ville. Il y a des odeurs, il y a des un bruit infernal, et puis il y a c'est vraiment une saleté aussi. Il y a une saleté. Et puis ce qui est dangereux, enfin le plus dangereux en Inde aussi, c'est de traverser les rues, hein. C'est pas le paludisme ou c'est de traverser une rue parce que
c'est les voitures.
C'est pas les voitures, parce que les voitures, il y en a encore assez peu.
Ouais.
Mais il y a énormément de camions, de rickshaws, de mobilettes, surtout de petites motos, de Vespa, de rickshaws. Et c'est vraiment le
et là c'est l'enfer.
Et là c'est infernal. C'est infernal. C'est vraiment terrifiant, c'est le mot. C'est le mot quand on débarque de la France. Et après, quand on revient en France, on a l'impression que la France, c'est la Suisse, quoi. C'est pas de problème.
Éric Sablé. Parlons de, pour qu'on comprenne l'Inde également, il y a ce phénomène de caste. Alors, en quoi est-ce qu'il consiste? D'abord, que l'on comprenne bien, que vous nous plantiez le décor, qu'on comprenne en quoi est-ce qu'il consiste. Et, qu'est-ce que cela signifie? On parlera après de la réincarnation, cette notion de réincarnation et de karma qui, je suppose, est sous-jacente à ce phénomène, à cette structure.
Oui.
Alors, les castes, c'est quoi?
Les castes, c'est une division de la société en fonction de sa... c'est une hiérarchie, c'est en même temps en fonction de son travail. Donc la caste supérieure,
de son travail intérieur, hein, pas de son travail, qu'on soit cordonnier, bottier ou
PDG. C'est aussi de son à l'origine. Et maintenant les castes ont disparu en Inde, hein, sont complètement abolies. Hein, donc c'est l'Inde actuelle est une Inde très différente de l'Inde du XVIIIe siècle.
Hein. Ça reste pas encore quand même sous-jacent?
Non, pas trop quand même. C'est maintenant justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu d'autres marques. On regarde si vous êtes musulman, si vous êtes hindou, si vous êtes shivaïste. Il y a toujours les brahmanes, c'est-à-dire que les brahmanes, on les voit, ils sont habillés en blanc, et souvent il y a des gens qui vont leur toucher la pied par dévotion en quelque sorte. Donc effectivement, il y a toujours cette dévotion pour les brahmanes.
D'accord. Alors les castes, c'est quoi?
Mais les castes, c'est une division de la société. Une division hiérarchisée de la société. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est plusieurs choses à propos des castes. C'est d'abord que les castes les plus hautes sont celles qui ont le plus de droits, mais c'est aussi celles qui ont le plus de devoirs. C'est-à-dire que la caste la plus haute, par exemple, c'est les brahmanes.
Oui.
Les brahmanes, effectivement, sont la caste la plus vénérée, mais c'est celle aussi qui obéit à l'éthique, à la morale la plus stricte. C'est-à-dire qu'un brahmane se doit, par exemple, d'être fidèle à sa femme. Alors que, par exemple, c'est la caste en dessous, la caste des guerriers, les kshatriyas. Alors là, par contre, on peut avoir plusieurs femmes. Par exemple, pour donner un exemple. Et d'ailleurs, c'était nécessaire puisque les guerriers mouraient, donc il fallait qu'ils aient beaucoup d'enfants.
Pragmatique, c'est efficace. Très très bien. Mais alors, le plus petit, c'était quoi? La caste la plus basse?
C'était ce qu'on appelle les hors-castes, effectivement. Il y avait des gens qui étaient considérés comme des étrangers, comme des n'appartenant pas au système hindou, qui, eux, effectivement, avaient une loi sévère contre eux.
C'est ce qu'on appelle, ici en Occident, les intouchables.
Les intouchables, voilà, c'est ça, ce qu'on appelait les intouchables, ou les dalits, etc. Mais ce qu'il faut voir aussi dans le système des castes, c'est qu'une caste, si on avait proposé à un hindou de quitter sa caste, il aurait refusé, même pour une caste plus haute, parce que la caste est une protection. C'est comme une espèce de corporation, de syndicat, si on veut, mais syndicat pas du tout au sens où nous l'entendons. Mais c'est quelque chose qui protège l'individu.
C'est un cadre de vie, quoi.
C'est un cadre de vie. Par exemple, les paysans, effectivement, étaient protégés par la caste à laquelle ils appartenaient, en quelque sorte. Donc, c'est pas simplement quelque chose, qui divise la société, qui est la preuve d'une société inégalitaire, mais c'est aussi un système de protection très efficace.
Et de structure.
Et de structure, et aussi ce qui est très important, ça permet à chacun d'être libre d'avoir son culte, en quelque sorte.
Libre. Dans un cadre très précis, quand même.
Dans un cadre, oui, mais ce cadre-là.
On est libre dans un enclos, quoi.
Non, mais ça protège une caste. C'est-à-dire
un enclos aussi.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais je veux dire que personne n'enviait les brahmanes, parce qu'un brahmane, effectivement, avait énormément de devoirs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On ne pouvait ne pas l'envier parce que, déjà, ils n'étaient pas spécialement riches. Il y avait des vaishyas, des commerçants, qui étaient beaucoup plus riches que les brahmanes. Donc ça n'arrivait rien à voir avec la richesse. C'était tout à fait autre chose. C'était une hiérarchie, où le plus haut, en quelque sorte, était, le religieux. Donc ça déjà c'est intéressant. C'est-à-dire que le plus haut n'est pas l'argent comme dans notre société. Notre société c'est le pouvoir, c'est l'argent.
Bien sûr.
C'est passé au plus haut. Dans la société indienne pas du tout. L'homme le plus riche justement, il s'inclinait devant le brahman, même très pauvre, il s'inclinait devant le brahman parce qu'il était considéré comme quelqu'un qui avait une connaissance supérieure à lui, qui d'un point de vue religieux lui était supérieur. Donc il y avait une espèce de hiérarchie qui n'était pas basée sur le pouvoir ou l'argent comme nous sommes finalement, nous avons une hiérarchie basée sur le pouvoir et l'argent, là c'est très clair, c'est-à-dire que notre société ne privilégiait pas les gens les meilleurs, les plus spirituels, mais privilégie les gens les plus agressifs et les plus ambitieux, alors que la société indienne justement privilégie les gens qui ont le plus, qui sont les plus spirituels.
Mais certains
à l'origine.
Mais certains pourraient vous dire, après tout, c'est deux formes d'obscurantisme complètement différentes, mais d'obscurantisme quand même. Un c'est par l'argent, l'autre c'est par la religion.
Ça dépend parce que les valeurs quand même spirituelles, personnellement je place les valeurs spirituelles au-delà des valeurs du monde en quelque sorte, des valeurs de l'argent et du pouvoir. J'estime que c'est plus noble justement de respecter les valeurs spirituelles, et c'est plus équilibrant pour une société, plutôt que de respecter les valeurs de l'argent comme on le fait et de plus en plus en Occident maintenant.
Ce que je veux dire par là, c'est pour vous amener à nous expliquer des notions essentielle si on veut comprendre vraiment le fondement de l'hindouisme, c'est que un occidental peut se dire mais un brahmane, s'il est digne de ce nom et s'il est réellement abouti spirituellement, doit favoriser l'intouchable pour qu'il grimpe tout au long de l'échelle et le rejoigne et devienne à son tour brahmane.
C'est pas comme ça que ça
Après
se passe.
Tout.
Oui, parce que on considère que le brahman prie pour tout le monde, que le brahman, en quelque sorte, ces rituels qu'il fait, ça équilibre la totalité de la société.
D'accord.
Voilà. Donc, dans un sens, vous avez raison. Mais maintenant, on considère aussi que c'est à chacun, en quelque sorte, de gravir ses propres échelles, en quelque sorte.
Oui. Donc, Et alors, ils le gravissent comment? Parce qu'on n'arrête pas la religion hindouiste prône la réincarnation.
Globalement, oui, quoique dans un sens.
Ah oui, c'est pas évident.
Ça a été contesté, mais en fait, oui, on peut dire que tous les grands saints l'enseignent, tous les gens comme Ananda Moy, tout ça, disent même qu'ils ont la vision justement des vies antérieures des êtres. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'hindouisme, c'est sûr. Ça a été contesté. On a dit que le védisme, la religion antique, donc la première religion hindoue en quelque sorte, la réincarnation n'est pas vraiment présente, mais non, c'est évident, contrairement, parce qu'il y a des orientalistes comme Daniel Lou qui l'ont contesté, mais non, c'est certain, en tous les cas actuellement, et puis déjà depuis très longtemps, notamment je viens de traduire les Yoga Sutras, là, c'est très présent la réincarnation.
Yoga Sutra, qu'est-ce que c'est?
C'est le premier texte qui a été écrit sur le yoga, qui date à peu près du 2e siècle avant Jésus-Christ, qui est un texte fondamental. Qui est composé d'aphorismes, qui est attribué à Patanjali et qui explique justement les fondements du yoga. Voilà, c'est le premier texte, le tout premier texte qui a été écrit sur ce qu'on appelle le yoga, c'est-à-dire yoga, ça vient de yug, ça veut dire l'union avec le divin en quelque sorte. C'est donc une technique qui est donnée pour s'unir au divin.
Oui, alors qui est Patanjali?
On ne sait rien sur
qui
lui.
Était. Parce que Patanjali, 2 siècles avant Jésus-Christ. Ouais.
On ne sait rien sur lui. On ne sait rien sur lui à part des légendes. Il est associé au dieu serpent notamment, mais les nagas, les dieux serpents qui sont les dépositaires de la sagesse. Mais sinon, d'un point de vue historique, on ne connaît strictement rien sur lui. Non, là, on ne peut pas en parler parce que il y a rien. Ouais.
Que dit ce texte alors, ce qui est le texte fondamental pour les yogis ou le yoga?
Alors, ce texte fondamental, c'est effectivement un texte essentiel. Il donne la méthode en quelque sorte pour arriver à cette ce qu'on peut appeler l'union au divin ou déjà l'apaisement du mental. Voilà, c'est ça. C'est ce qui donne justement toute la méthode, une méthode qui est extrêmement rigoureuse et structurée, qui comporte un certain nombre de points précis et qui justement doit amener l'être humain qui pratique justement le yogi, qui pratique cette technique, à ce que l'on appelle l'état de samadhi, c'est-à-dire un état de réalisation intérieure, je ne sais pas comment qualifier ça. Moi, je l'ai traduit un petit peu comme un état
l'illumination
d'absorption intérieure. Voilà, d'absorption intérieure, c'est-à-dire d'illumination, oui, bien sûr.
Oui, pour faire le parallèle.
Avec le christianisme, on peut dire c'est un état d'illumination.
Ouais. Voilà. Et alors, c'est vraiment un mode d'emploi, c'est-à-dire d'exercice physique basé sur la respiration. Ça se passe comment?
Oui, c'est pas simplement c'est un mode d'emploi. Alors tout à fait, c'est tout à fait ça exactement. Mais par contre, il y a des exercices où ça commence par les yaman yama, c'est-à-dire les observances en quelque sorte, parce que un yogi ne peut pas tuer par exemple, et puis se prétendre un yogi, c'est-à-dire qu'il faut observer la non-violence. La non-violence, ahimsa, ce qu'on appelle ahimsa en sanskrit, est considérée comme une observance fondamentale pour justement pratiquer le yoga. Et puis ensuite, il y a toute une hiérarchie. Alors effectivement, il y a la posture, il y a une technique de souffle, il y a ensuite la maîtrise du mental, etc., pour aboutir justement à cet état d'illumination.
Voilà. Oui. Donc il y a un vrai parcours qui est balisé étape par étape.
Tout à fait.
Contrairement à d'autres parcours, je ne sais pas, initiatiques comme l'alchimie, comme l'ésotérisme occidental, où là c'est vraiment très flou, c'est chacun cherche et trouve s'il peut, ou s'il est digne de trouver, mais tandis que là il y a une vraie méthode, vraiment.
Voilà, c'est ce qui différencie un petit peu le yoga, on peut dire, du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme, il n'y a pas vraiment de méthode. C'est-à-dire que les saints ne donnent pas une méthode pour devenir un saint.
non.
Et d'ailleurs, on attribue ça à une grâce de Dieu, souvent.
Oui, oui.
Alors que là, non, pas du tout. Justement, il y a une méthode. Il y a une méthode, si on se sent appelé, en quelque sorte, parce qu'il faut avoir la vocation. Ça, c'est très important dans les Yoga Sutras. Si on a la vocation, et bien à ce moment-là, effectivement, on peut suivre cette méthode. Oui, tout à fait.
Et est-ce qu'il y a l'équivalent, je vais peut-être dire une bêtise, mais des sadhus dans le yoga, c'est-à-dire des gens qui décident de se consacrer uniquement et pleinement, entièrement à ça?
Ah oui, les sadhus sont des yogis.
Oui. Ah, d'accord, ça va avec.
Ah oui, oui, très souvent. Bah, tous ceux que j'ai rencontrés, ils pratiquent, ils m'ont même tous enseigné, ils m'ont dit ce qu'ils pratiquaient comme, comme forme de, ce qu'ils avaient comme forme de pratique spirituelle. Oui, ils m'ont expliqué avec le mala, justement, le chapelet, enfin, ce qu'on appelle un chapelet, entre guillemets, comment ils l'utilisaient, etc. Ils m'ont, j'aurais posé des questions et ils m'ont répondu et ils ont des connaissances secrètes aussi parce que les sadhus sont très respectés aussi à cause de ça. Par exemple, il y a beaucoup d'histoires de gens qui sont malades, par exemple, et un sadhu, qui arrive et simplement il donne un verre d'eau avec dessus, il a écrit un diagramme particulier, il a récité une phrase magique, ce qu'on appelle un mantra particulier, la personne qui est malade boit ça et elle est guérie. Alors il y a tas d'histoires comme ça qui circulent justement en Inde. Donc les sadhus sont à la fois craints et respectés à cause de ça. Ouais, justement.
Vous nous avez dit il y a quelques instants un sadhu, donc j'imagine, ou un yogi, enfin c'est souvent les mêmes, ont des principes qu'ils doivent respecter, ne pas tuer par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ne pas voler, comme ne pas mentir, comme enfin vous voyez ce qu'on connaît, je veux dire.
Mais c'est ça, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est tout à fait ça, effectivement, oui, oui. Mais ce que la particularité, c'est que dans les Yoga Sutras, on dit que justement toutes ces observances extérieures tiennent en une seule, c'est-à-dire que bon, on les décrit hein, toutes, effectivement, ne pas mentir, ne dire la vérité, enfin, etc., ne pas voler, ne pas
les 10 commandements, quoi, enfin, en quelque sorte.
Un peu, oui, c'est ça, un petit peu ça. Mais
les 7 péchés capitaux, enfin.
Oui, oui, exactement, exactement. On retrouve un petit peu les mêmes idées, ce qui prouve que la sagesse est universelle. Hein.
Tout à fait.
Mais simplement, on dit que tout prenne racine dans Ahimsa, la non-violence. On dit que ça, c'est la base. Voilà, on dit que la non-violence, c'est la base. C'est-à-dire que si on est absolument non-violent, eh bien, on ne volera pas, parce que forcément, on ne fera pas de mal à autrui en le volant, on ne sera pas adultère parce qu'effectivement, on ne fera pas de mal, etc., etc. Voilà. Ouais. Donc, on déduit ça, je trouve ça assez malin. Ils déduisent à partir de la non-violence, ils en déduisent toutes les autres qualités que le yogi peut acquérir. Mmh. Voilà. Il suffit d'être parfaitement non-violent.
Ouais. Avant de faire une nouvelle pause pour aborder d'autres thèmes tout aussi intéressant comme le tantrisme ou les chakras, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que, pour faire le parallèle toujours entre ce que nous connaissons, nous, ceux et celles qui nous écoutent, judéo-chrétiens de bon teint, avec son boulet qui s'appelle la culpabilité que l'on traîne, vous savez, la notion de péché, la notion de pardon, est-ce que ça existe ça chez les hindouistes, ou la confession n'existe pas, c'est tu t'expliques avec Dieu, point barre.
Il y a pas de confession, non, il y a pas de confession au sens où nous l'entendons, et effectivement, et il y a pas cette notion de péché au sens où nous l'entendons. Ça, c'est là, c'est clair. Parce que la notion de péché, ce qui remplace la notion de péché, c'est la notion d'illusion, quelque sorte, de maya, c'est-à-dire que la personne, ou d'ignorance, avidya, l'ignorance. Donc on dit que c'est en quelque sorte le voile, en quelque sorte. Il y a un voile qui est jeté justement sur la réalité divine. Et c'est ce voile-là, ce voile de la Maya. Et ça, cette espèce de rapport justement à Maya, le fait que ça soit le Maya, l'illusion qui soit à la source de tous les malheurs de l'homme, change complètement le rapport à la vie. Quoi. Et cette Maya est très mystérieuse. On dit justement elle est en même temps adorée parce que elle est tellement mystérieuse. Elle n'a pas d'origine. On ne sait pas ce qu'elle est. Il y a une très belle histoire d'ailleurs de Ramakrishna, si vous voulez, je peux vous la raconter.
Ah oui, oui, avec grand plaisir. Oui.
Il y a une très belle histoire de Ramakrishna à propos qu'il raconte justement à propos de la Maya. Il y a un jour comme ça, il y a un disciple qui est avec son maître et le disciple demande au maître, maître, qu'est-ce que la Maya? Et le maître il ne répond pas, mais simplement il lui tend un seau, il lui dit va donc chercher de l'eau à la rivière. Et il y a le disciple qui va au bord de la rivière. Et puis, il va pour prendre de l'eau, et à ce moment-là, il voit une femme extrêmement belle, une jeune fille extrêmement belle, qui est aussi au bord de la rivière, en train de prendre de l'eau. Il tombe instantanément amoureux d'elle, et il commence à lui parler, il la suit dans son village. Et puis, bon, les événements se produisent comme ça, il se marie avec elle, il s'installe dans le village, il est heureux. Ils ont un enfant, deux enfants, trois enfants. Et puis les années passent. Et puis, un jour, il y a une inondation et ses enfants sont emportés par la rivière. C'est terrible. Et tout de suite après l'inondation, il y a une épidémie et sa femme, elle meurt. Et là, il est complètement désespéré. Et il va comme ça au bord de la rivière pour pleurer ses enfants, pour pleurer sa femme. Il regarde l'eau et à ce moment-là, il entend une petite voix derrière lui qui lui dit « Et alors, cette eau, ça vient ? Ça fait une demi-heure que tu es parti. » Terrible.
Terrible. Éric Sablé, une pause. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à découvrir avec vous cet univers si enrichissant et fascinant. Et on va, après avoir fait un large détour par le tantrisme et les chakras, vous nous direz ce que c'est, se poser la question de savoir si l'hindouisme est soluble dans le monde occidental. Est-ce qu'il y a des passerelles possibles ou pas? À tout de suite.
Sud Radio. Louis Bénédi. Les aventuriers de l'étrange.
En compagnie d'Éric Sablé, auteur de nombreux ouvrages sur la spiritualité hindoue, sur le yoga. Et d'ailleurs, je signale à ceux et celles qui veulent vous rencontrer que vous serez présent au Salon du Livre Ésotérique et Philosophique qui va se dérouler à Condom, dans le Gers. Gers que vous connaissez si bien. Vous donnerez une conférence, donc, et les gens pourront venir discuter directement avec vous et pourront échanger et vous pourrez partager avec eux. Ce sera donc dans le week-end du 23 et 24 juin. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui veulent avoir des informations sur ce salon, c'est sur le site internet Salon Libère, en un seul mot, salonlibere.org. Éric Sablé, pour rebondir sur cette histoire que vous nous avez raconté tout à l'heure, je suppose que l'enseignement se donne beaucoup comme ça, à travers des métaphores, des histoires.
Oui, oui, tout à fait. C'est une façon, disons, pour l'enseignement spirituel de circuler. L'enseignement spirituel circule énormément avec ces histoires-là.
Oui, oui.
Et justement, un grand saint comme Ramakrishna s'est fait l'écho de beaucoup de ces histoires, mais c'est traditionnel. Un petit peu comme dans le soufisme. Dans le soufisme aussi, il y a énormément d'histoires. Vous connaissez sans doute des histoires de Moulana Nasruddin, qui circulent aussi beaucoup dans les milieux soufis, justement, et qui véhiculent, elles aussi, un enseignement spirituel.
Mmh. Et il y a tout le temps dans cet enseignement un rapport maître à disciple. Il ne peut pas y avoir d'enseignement sans maître.
En Inde, le maître est très important. Alors que dans le bouddhisme, par exemple, originel, le bouddhisme tel que l'enseignait le Bouddha, il était en quelque sorte un grand libertaire, le Bouddha,
ouais.
Qui a justement, lorsque Ananda lui demandait de désigner son successeur, il a refusé. Et il a dit que chacun soit à lui-même sa propre île, son propre refuge.
Ouais.
Voilà. Donc là, il y a une négation en quelque sorte de la notion de maître telle que l'entend l'hindouisme. Mais par contre, dans l'hindouisme, le gourou, le maître, est très important. Il est un peu l'incarnation du divin. Il est celui qui donne, qui guide en quelque sorte sur le chemin justement difficile de la spiritualité.
Ouais.
Donc il est indispensable. Il y a vraiment un rapport au maître qui est très particulier. Et notamment, on touche toujours, pour avoir la bénédiction du maître, il y a toujours, la bénédiction passe par ses pieds, donc très souvent, en signe de vénération, on lui touche les pieds, et ensuite, pour justement prendre cette bénédiction, en quelque sorte,
ouais,
émanée
ouais.
par le maître, on le pose cette main
ouais.
que l'on a posée sur le pied du gourou, sur son front. Voilà, c'est une...
Ouais.
Un signe de vénération.
Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est arrivé jusque en Occident depuis bien bien longtemps, les chakras. Qu'est-ce que les chakras? Quelle partie occupent-elles? Quelle importance ont les chakras dans la religion hindouiste? Et expliquez-nous en quoi ça consiste.
Alors, les chakras, ils sont pas du tout présents dans la religion hindouiste à l'origine. Ils sont venus se greffer en quelque sorte sur l'hindouisme, sans doute justement ils viennent de ces cultes de la mer, ils viennent certainement de ce fond dravidien, et ils procèdent certainement d'une certaine vision qu'avaient certains sages, certains maîtres. Ils avaient une vision d'un corps subtil qui est en quelque sorte parallèle au corps physique, et je pense que c'est l'origine en quelque sorte des chakras.
Ouais.
Sinon dans les Yoga Sutras par exemple, ils ne sont pas présents. Ils sont pas présents. Par contre, ils sont venus après. On ne parle pas de chakras.
Oui.
Mais les chakras sont en quelque sorte des centres de force. Il y en a 7 ou il y en a 6. Enfin, ça dépend un peu des traités. Ça dépend un peu de. Et ils sont pas tout à fait semblables chez les bouddhistes tantriques et chez les tantriques hindous.
Oui.
Mais globalement, il y a 7 chakras qui sont situés le long du corps, enfin le long de la colonne vertébrale. en quelque sorte. Et chacun de ces chakras sont à la source d'une certaine énergie, en quelque sorte. Une énergie particulière, qui a une coloration particulière. C'est-à-dire que cette énergie a une coloration particulière.
Il y a une fonction, une couleur.
Une fonction particulière. C'est-à-dire que si l'on pratique, si on effectue certaines pratiques spirituelles sur un certain chakra, ça entraînera certaines conséquences. Et sur un autre chakra, ça entraînera d'autres conséquences.
Oui.
Voilà. Donc, c'est très important, disons, d'utiliser tel ou tel chakra. Voilà.
Mais là, soyons clairs tout de suite, c'est une question de foi, c'est pas une question de science. Les chakras n'ont jamais été prouvés scientifiquement. Je vous pose la question, hein, à ma connaissance.
C'est pas une question de foi, puisque c'est des choses, et je pense que ça procède exactement comme il y a des gens, notamment sur Toulouse, il y en a une personne qui voit comme on voit le corps physique, il voit les méridiens de l'acupuncture. Et il est utilisé, cette personne-là est utilisée par certains médecins acupuncteurs, parce qu'il sait où piquer, justement.
Ces
méridiens d'acupuncture sont exactement ce que l'on appelle en sanskrit les nadis. C'est-à-dire, nadis en sanskrit, ça veut dire rivière, mais qui sont des courants d'énergie qui parcourent le corps.
Ouais.
Et bien, quand vous superposez ces nadis et ces méridiens d'acupuncture, c'est exactement la même chose. Donc, ce qui prouve que certaines personnes, et notamment à Toulouse, voient ces méridiens-là, les anciens chinois avaient la connaissance de ces méridiens d'acupuncture. Et de la même façon, les anciens hindous avaient certainement la vision des nadis, la vision de ces courants d'énergie. Et ces courants d'énergie s'enracinent en quelque sorte dans ces sept chakras qui sont situés le long de la colonne vertébrale.
Ouais. Voilà.
Et maintenant, dire si c'est scientifique ou pas, il y a une chose et un fait qui est quand même pas très connu, mais qui est quand même extrêmement troublant. C'est qu'il y a un petit livre qui est paru, je crois qu'il est paru en Allemagne, au XVIIe siècle, qui s'appelle « Theosophia Practica » par un certain Gichtel, qui était un grand disciple de Jacob Boehme. Et dans ce petit livre que l'on peut consulter, qui est un livre qui est très ancien, il y a des planches. Et sur ces planches, il y a la représentation exacte des chakras, c'est-à-dire exactement, les chakras sont représentés exactement là où ils se trouvent représentés dans les textes hindous.
Ouais.
Manifestement, c'est quelqu'un qui était un pur chrétien, qui n'avait aucune connaissance de l'Inde. Et en plus de ça, au XVIIe siècle, il y avait assez peu quand même de relations entre
l'Allemagne. Il aurait pu tomber sur un document ramené par un explorateur.
Je pense pas, parce qu'il explique ça justement par une vision intérieure.
Ouais.
Et donc, pas du tout. C'est vraiment, et c'est assez troublant parce que ils sont situés exactement à la même place. Il leur donne pas exactement la même fonction d'ailleurs. C'est très particulier. Les a christianisés en quelque sorte. Donc c'est assez étonnant.
Ouais.
Voilà, donc c'est pour simplement montrer que ces chakras ne sont pas simplement propres à l'hindouisme et que l'on retrouve aussi en Occident justement comme une espèce d'écho assez mystérieux de ces chakras.
Ouais. Alors, où sont-ils disposés sur le corps, ces sept chakras? Puisqu'il y en a sept, déjà, c'est pas par hasard. Sept.
Oui, voilà, c'est vrai, on peut en mettre sept, effectivement.
Ouais, ouais, ouais.
Alors, les premiers est à la base de la colonne vertébrale. Ça, c'est le Mooladhara, c'est le chakra de base, en quelque sorte, qui est à la source. C'est là où on dit que la Kundalini, c'est-à-dire la déesse Kundalini, demeure endormie à la base de la colonne vertébrale. Et justement, le travail du yogi, du tantrique, consiste à l'éveiller, justement, pour qu'elle rejoigne son époux, qui, lui, est dans le dernier chakra, celui qui est au sommet du crâne. Voilà.
Oui, d'accord.
Donc c'est toute une pratique justement qui consiste à éveiller cette déesse qui est endormie.
Et est-ce que ce chakra a c'est quoi, c'est l'ancrage,
c'est l'énergie
de la terre,
il est considéré comme lié à la terre parce qu'ils sont liés aux éléments d'abord.
Ouais.
Il est lié donc à la terre et donc c'est un chakra qui est profondément à la source en quelque sorte de toute l'énergie de base de l'individu en quelque sorte. Le deuxième est un chakra qui est situé sur le sexe en quelque sorte, donc c'est l'énergie sexuelle. Quelqu'un qui l'éveille peut devenir, par exemple, il y a eu des éveils comme ça de chakras, quelqu'un peut devenir perturbé sexuellement en éveillant ce chakra là. Il y a le chakra Manipura qui lui se trouve à peu près au nombril, qui lui est lié au feu. Il y a au feu, au mantra du feu, et qui est à la base. Alors c'est chez les bouddhistes, ils considèrent que c'est le premier chakra. C'est le chakra de base chez les bouddhistes.
Hein.
Par contre, chez les hindous, c'est le troisième chakra. Hein, c'est le Manipura. Mm-hmm. Et lui, il est lié à une espèce de vitalité particulière. C'est là que se trouve justement le centre Hara de l'aïkido ou du zen, qui a beaucoup d'importance au Japon, ce centre-là. Hein. Mm-hmm. C'est un centre, justement, qui est le centre en même temps de la digestion. Donc, c'est un centre qui est très important.
De celui qui transforme.
Il transforme, voilà. Il transforme tous les aliments, parce que c'est le feu qui transforme, qui est le feu digestif, on parle. Hein. Mm-hmm. Le feu de la digestion. Ouais, donc, justement, il trouve sa racine là dans ce chakra là.
D'accord.
Ensuite, nous avons Anahata, c'est le chakra du cœur en quelque sorte.
Là, c'est le quatrième.
La source, c'est le quatrième. C'est le quatrième chakra qui, lui, est lié justement à plusieurs choses. Alors, parce que c'est un chakra qui est très important.
C'est au plexus solaire, c'est celui qui se trouve.
Non, il n'est pas vraiment au plexus solaire. Il est plutôt, il a plusieurs situations, hein, parce que on dit il est lié à peu près au cœur. Il s'étage à peu près dans cette zone-là, en quelque sorte. Hein, c'est une zone vers là. Il est lié à une émotion spirituelle en quelque sorte, alors que on peut dire que le chakra Manipura, celui du ventre, est lié à une espèce de joie vitale en quelque sorte, fondamentale, de joie du plaisir. Là, il est loué à une joie déjà beaucoup plus très spirituelle, à une joie, c'est la source justement de toute émotion spirituelle, tout ce qui est
sentiment également, j'imagine.
Mais sentiment dans un sens épuré déjà, hein, dans un sens épuré. Voilà.
D'accord.
En même temps, il la source on dit du sang. Du son de l'univers, quoi. C'est là qu'on écoute le son sacré. Ensuite, il y a le chakra de la gorge, lui qui est lié justement aussi. C'est lié à chaque fois à des glandes, hein, des glandes particulières, la glande thyroïde, qui est lié justement à l'oreille, au son aussi. Et ensuite, il y a un chakra aussi qui est très important, c'est celui qui est entre les deux yeux, ou au milieu du crâne, enfin, qui est à peu près situé là, le ajna.
Celui qu'on appelle le troisième œil.
Voilà, c'est celui qu'on appelle le troisième œil, tout à fait.
Et alors lui, quelle est sa fonction?
Alors lui, ça peut être une fonction de volonté, on dit, hein, c'est-à-dire que si on se concentre là-dessus, on peut acquérir justement une volonté importante, une certaine maîtrise sur le mental. Et puis c'est la source aussi de pouvoir, de voyance, par exemple. On peut avoir justement, il y a une espèce de lumière particulière qui peut apparaître, et là, c'est là que peuvent se développer certaines images de voyance, par exemple, sur ce chakra-là. Les gens qui ont développé ce chakra-là peuvent avoir des phénomènes de clairvoyance, voilà.
Et le dernier, enfin, en fait, l'époux, le dernier, qui est l'époux, comme vous le disiez tout à l'heure.
Voilà, Sahasrara, qui est le chakra aux 1000 pétales, en quelque sorte, qui, lui, est le chakra ultime, celui de la réalisation spirituelle.
Qui est au sommet du crâne.
Qui est au sommet du crâne, voilà, exactement, à la fontanelle, quoi, en quelque sorte. Qui est le pont, en quelque sorte, entre ce monde-ci et puis le monde spirituel, enfin voilà. Parce qu'il y a certains traités qui justement à partir de ce chakra-là justement disent qu'à partir de ce chakra-là commence le voyage spirituel. Pour d'autres par contre, c'est l'accomplissement. Voilà, c'est l'accomplissement où l'époux qui demeure justement Shiva qui demeure dans ce chakra-là rencontre à nouveau sa Shakti, sa femme qui est la Kundalini. Et s'unir à elle, voilà.
Bien. Vous restez avec nous, Eric Sablé. Nous terminerons sur le volet quand même des chakras, parce que je pense qu'on n'a pas tout dit. À quoi cela sert? Qu'est-ce que dans la catégorie, dans le tiroir, l'hindouisme est-il soluble en Occident? Est-ce qu'on peut l'étudier ici et s'en servir? Pourquoi pas? Parce que ça peut être une connaissance intéressante pour tout un chacun. Est-ce que c'est pas dangereux de travailler dessus? Vous nous expliquerez tout ça et tout ce que vous ont dit les sadhus à ce propos. À tout de suite.
Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange.
En compagnie d'Éric Sablé, comme nous le disions tout à fait au début de cette émission, je suis ravi de recevoir un aventurier de l'étrange, réellement auteur et également directeur de collection. Éric Sablé, est-ce que, comme je le disais tout à l'heure dans la catégorie, dans le tiroir, l'hindouisme est-il le soluble en Occident, est-ce que il est facile sans danger de travailler sur les chakras en se procurant un petit bouquin, je dis tiens, je vais me livrer à des exercices, allons-y, youpi, tralala.
Non, ça peut être très dangereux. C'est-à-dire que les chakras, on touche à des forces qui nous dépassent de beaucoup. Et si justement l'Inde attache une telle importance au maître, c'est en partie aussi à cause de ça. C'est parce que ça, le développement de ces forces qui sont en nous, qui sont des forces qui peuvent être très fortes, très puissantes, dont on n'a aucune idée, peut-être extrêmement dangereux, peut amener beaucoup de déséquilibre, beaucoup de troubles. Mm-hmm. Et notamment, il y a beaucoup de sadhus, notamment, qui deviennent fous. Avec des pratiques comme ça. Et j'ai rencontré des sadhus qui sont fous. Et on les respecte beaucoup parce qu'on considère que c'est des yogis qui ont échoué. On les met pas du tout en hôpital psychiatrique.
Ah bon?
J'en ai rencontré qui erraient comme ça. J'étais avec des amis et notamment un qui a fait très peur à une amie parce qu'elle avait touché comme ça une vache et il s'est précipité sur elle avec un bâton lui disant ne touche pas ma vache. Ouais. Et c'était quelqu'un qui manifestement était très perturbé, très perturbé.
Oui, déséquilibré quoi.
Très déséquilibré, ouais. Voilà, très déséquilibré parce que justement ils ont vécu des expériences trop fortes. Donc c'est effectivement ça peut être très dangereux le toucher au chakra, ça peut être très dangereux. Mmh. Et ça peut amener des déséquilibres de toutes sortes.
C'est-à-dire voilà. Quelqu'un, je sais pas moi, qui travaille sur le troisième œil par exemple
ce chakra non, mais par exemple le chakra du bas, par exemple si on veut éveiller la kundalini, si on veut travailler sur la base de la colonne vertébrale, ouais. Il faut impérativement ça un maître et un bon maître. Mmh. Ça c'est évident parce ouais. que ça peut amener justement des déferlements d'énergie complètement qui ne sont pas maîtrisables en quelque sorte. Donc comme on n'est pas pur en quelque sorte, on est alors que des gens comme Ramakrishna étaient d'une grande pureté, nous ne sommes pas dans cette grande pureté de Ramakrishna. Donc obligatoirement cette énergie qui va se développer un peu comme un torrent dans notre corps va se heurter à tous ces fantasmes, à tous ces blocages que nous avons et ça peut entraîner des perturbations très très fortes, c'est-à-dire que si nous étions évidemment parfaitement transparents, il n'y aurait aucun problème. Mais dans la mesure où nous ne sommes pas transparents, où nous sommes au contraire des êtres particulièrement en Occident, des êtres particulièrement déséquilibrés par rapport justement à ce qui est exigé d'un yogi, mm-hmm. Ce torrent en quelque sorte que l'on a éveillé va rencontrer ces scories en quelque sorte, qu'en alchimie on appelle des scories, et qui vont prendre des formes immenses et on peut se retrouver à l'hôpital psychiatrique. Ou alors vivre des choses extrêmement extrêmement difficiles, ouais. Comme a vécu Gopi Krishna, hein, je sais pas.
C'est-à-dire
c'est quelqu'un qui a écrit un livre, un hindou, hein, qui a écrit un livre qui a vécu comme ça un éveil sauvage de la Kundalini, et il a écrit un livre qui s'appelle Kundalini, hein, il s'appelle Gopi Krishna, et il raconte son vécu et c'est assez dur. C'est, il a vécu des choses très très dures.
Ouais. On a du mal à se rendre compte parce que j'imagine qu'un scientifique qui nous écoute ce soir doit considérer ça au mieux comme étant de la gentille poésie, au pire comme un délire sans fondement.
Ça dépend.
Vous avez dû être confronté à ça, j'imagine.
Oui, ça dépend quel scientifique. C'est-à-dire que c'est là encore, il y a effectivement des scientifiques, une majorité évidemment de scientifiques qui eux n'admettent pas ou n'ont même jamais entendu parler de ce genre de pouvoir ou ce genre de phénomène. Mais il y en a d'autres qui sont par contre ouverts à ce genre de choses. Donc ça dépend. Maintenant, ce n'est évidemment pas des choses, tout ce qui est de l'ordre du spirituel n'est pas quantifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer la souffrance d'un être. De la même façon, on ne peut pas mesurer l'illumination d'un être. Donc ce n'est pas de l'ordre du quantifiable, ce sont des choses qui sont de l'ordre du qualitatif. Donc effectivement, ça échappe à toute analyse scientifique.
Ouais.
On peut simplement que mesurer certains phénomènes extérieurs. Effectivement, comme par exemple l'augmentation de la température, quelqu'un qui a éveillé par exemple certains chakras, notamment le chakra du ventre, hein, a une température. Il peut vivre notamment dans des grottes himalayennes à 6000 mètres, à 5000 mètres, dans un froid extrême, vêtu quasiment nu. Donc on peut constater ce genre de choses. J'ai un ami qui a photographié notamment ce genre de sadhu qui notamment sadhu qui était complètement immobile, nu dans la neige à 5000 mètres d'altitude. Voilà, pour ça il l'a photographié. Donc c'est des choses, il a assisté, il a vu. Moi aussi j'ai vu un petit peu parfois j'ai croisé ce genre de phénomène. Donc là, on peut constater en quelque sorte des effets de ce travail sur les chakras.
Ouais.
domaine, mais évidemment pas le travail en lui-même, pas l'état intérieur dans lequel se trouve la personne qui pratique ce genre de choses.
Mmh. Alors, pour mettre en garde ceux et celles qui nous écoutent et qui seraient quand même tenter de réaliser ce genre de prouesse, il faut bien que vous leur signalez que c'est sadhus qui font ça. C'est au prix, j'imagine, de sacrifices et d'heures et d'heures, voire d'années de travail.
Oui, et puis surtout de la présence d'un maître. C'est-à-dire qu'ils ont tous un gourou, ils ont tous un maître qui justement est passé lui aussi par cette voie-là, donc qui sait exactement à quelle étape ils en sont et qui est capable justement de, en quelque sorte, diriger le feu, quoi, ou alors de le diminuer ou de l'augmenter. Enfin, ils ont tout un système là tout un système d'enseignement qui est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement précis.
Ouais. J'imagine que on ne s'approche pas de ce genre de culture, de connaissances, sans être tenté d'essayer soi-même.
Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Tout à
Vous
fait.
Voyez où je veux en venir.
Oui. oui, tout à fait. Mais il y a effectivement des maîtres vraiment valables, c'est-à-dire qu'il faut, surtout faire attention, parce qu'il y a aussi, là, c'est une mise en garde qui est aussi assez importante, c'est qu'il y a tout ce qu'on appelle un spiritual business, un business spirituel qui est extrêmement florissant aussi en Inde, comme partout. Il faut faire très attention, et justement, peut-être qu'un des critères, c'est précisément qu'un vrai maître ne demande rien, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous exploiter financièrement, il n'a pas... C'est-à-dire qu'il ne... Je crois que les critères sont très simples pour reconnaître un vrai gourou, d'un faux, c'est qu'un vrai gourou n'aura aucun rapport ni de pouvoir, ni de sexe, ni d'argent avec ses disciples. Voilà, je pense que c'est très simple, quoi, vraiment, et c'est un critère là qui est absolu, absolu, et quand vous voyez évidemment quelqu'un qui n'est ni dans un rapport de pouvoir, c'est-à-dire qui n'est pas style fondateur de secte,
tout à fait,
ni dans un rapport de sexe avec ses disciples, ni dans un rapport d'argent avec toutes les sommes, etc. Là, vous pouvez déjà commencer à ouvrir votre cœur. Et dire que là, c'est peut-être cette personne est intéressante.
Ouais. Voilà. Mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question, à savoir est-ce que vous avez essayé et qu'avez-vous ressenti?
Ah, moi j'ai une pratique parce que j'ai connu la première pratique que j'ai faite, c'était une pratique bouddhiste, mais du bouddhisme du Sri Lanka, donc du bouddhisme originel en quelque sorte, pas le bouddhisme tibétain. Ouais. Parce que le premier maître que j'ai rencontré, c'est Mahinda, c'était un moine justement sri-lankais il y a très très longtemps. Quand j'avais 18-20 ans.
Ah oui, très jeune donc.
Oui, très jeune, oui. Et c'était un peu ce qui m'a enseigné. Et c'est une pratique qui est très intéressante parce que justement, elle est très scientifique. C'est-à-dire que c'est l'application d'une méthode scientifique à notre intériorité. Donc, c'était la première pratique que j'ai eue. C'est très intéressant. Ça consiste à avoir une espèce de distanciation vis-à-vis, c'est-à-dire être présent en quelque sorte aux sensations, aux perceptions. Enfin bon, je vais pas l'expliquer ici,
Et là, ça a duré longtemps. Ça a été une période longue de votre vie ou?
Oui, j'ai pratiqué ça pendant longtemps et ça m'a beaucoup apporté. C'est quelque chose vraiment. Et ce moine lui-même était un personnage assez étonnant que j'avais rencontré. J'étais à l'époque, c'était une époque où j'étais à Paris et je l'avais rencontré en bas de chez Madame Kaufmann. C'était un. Si vous voulez, voulez que je vous raconte ma rencontre avec
lui. Oui, tout à fait. Oui, je suis curieux.
Alors c'était un petit bonhomme comme ça. J'étais très ami avec Madame Kaufmann, qui était la présidente des Amis du Bouddhisme à l'époque. Enfin, maintenant elle est morte, mais c'est une femme très généreuse et moi elle m'a beaucoup apporté. Et puis un jour je vais la voir et puis il y avait un petit bonhomme comme ça, tout bronzé, qui était en bas de chez elle, devant une montagne de valises, de caisses de carton comme ça, voilà. Et puis il me regarde avec un grand sourire, il me dit « Are you interested by Buddhism ?» Alors je dis oui. Alors il me dit « Come with me ». Et puis il m'a fait monter chez Madame Kaufmann. En fait, chez Madame Kaufmann, à l'époque, tous les moines hindous, bouddhistes, descendaient chez elle. Transitaient par chez elle, exactement. C'était le lieu de transit de tous les moines. Parce qu'il y avait assez peu de gens qui étaient capables justement d'accueillir comme ça ces êtres-là. Et puis, Et puis alors il y a Madame Kaufmann et son fils qui commencent à m'expliquer, ben on n'a pas de problème pour le loger, mais par contre il voyage à travers le monde avec 400 kilos de bagages et on ne sait pas où les mettre. Alors, est-ce que tu n'aurais pas par hasard un endroit pour qu'on puisse
pour stocker
tous ces toutes ces valises et tous ces cartons qui trimballent à travers le monde? Alors, je dis, oh boy, il n'y a pas de problème. Justement, là, je vis en banlieue. J'ai un studio, une petite chambre d'étudiant qui me servait de chambre d'étudiant que j'ai gardée sur Paris. On peut stocker tout dans cette chambre-là. Il n'y a pas de problème. Et puis voilà, on lui explique. Et puis lui, à ce moment-là, quand il entend ça, il dit « Mais oui, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un garage là où vous habitez ?» Alors il dit « Oui, effectivement, il y a un garage. » Alors il dit « Est-ce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas mettre toutes les affaires dans le garage et puis moi, j'habite la chambre
?» Excellent, voilà. Efficace, pratique.
Voilà, très pratique, il dit toujours ça.
Tout à fait.
Et puis,
allons-y.
Allons-y.
Vous étiez un peu pris au pied du mur quand
voilà,
même. Là.
Bon. On prend toutes ses affaires, on les met justement dans le garage et lui, il va habiter la chambre. Et à l'époque, j'étais étudiant et pour payer mes études, j'étais gardien d'immeuble. Et je me levais donc très très tôt, je prenais le premier métro. Et un jour, comme ça, brusquement, je vois sur le quai du métro, il devait être, je sais pas, 7h du matin, vraiment très tôt, je vois Maïnda en pagne, en sandales et en pagne, sur le quai du métro, à Paris, quoi. C'était vraiment complètement, complètement irréel. Et alors, je vais le voir, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il me dit, voilà ce qui se passe. C'est que, il y avait les toilettes qui étaient à l'extérieur. Et il dit, à 5h du matin, je me suis levé pour aller aux toilettes. Et puis, bang, la porte a s'est refermée toute seule. Et donc, je pouvais plus rentrer. Et alors, j'ai réfléchi, parce que les bouddhistes, ils sont intelligents. Donc, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, oui, il m'a dit qu'il faisait passer à tel endroit, à telle heure.
Donc, il faut que j'y sois.
Et alors, il y a été. Et puis il a commencé à expliquer au monsieur qui vendait les tickets que il était retour pas, il était torse nu avec un pagne, un petit bonhomme tout brun. Le type il a dit non, on ne passe pas. Et alors il a réfléchi, il a fouillé dans la poubelle, il a trouvé un vieux pot de yaourt et il a commencé à mendier jusqu'au moment où il a eu suffisamment d'argent pour se payer un ticket de métro et il a pu rentrer comme ça dans le métro. Et donc, bon, je l'ai emmené avec moi au travail, tout ça. Enfin, c'était.
Oui. Un personnage c'était assez fascinant, quand même.
Assez étonnant.
Voilà. Ah, pour le moins.
Oui, assez étonnant.
Belle rencontre. Éric Sablé, vous restez avec nous. Une nouvelle pause et on se retrouve dans quelques minutes.
Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange.
Éric Sablé est en ma compagnie ce soir sur Sud Radio. Éric Sablé, auteur, qui sera présent au Salon du Livre Ésotérique et Philosophique les 23 et 24 juin, salon deuxième édition. Ce sera à Condon, dans le cloître du 16e siècle, pour une conférence et évidemment une signature de ses nombreux ouvrages. Éric Sablé, ce moine qui a l'air... Enfin, peut-être est-il encore vivant, je ne sais pas, mais jubilatoire, extrêmement débrouillard, parce que pour oser quand même taper la manche dans le métro avec un pot de yaourt, prendre le truc en pagne et en claquette, faut être solide quand même.
Ah oui, il était démonté par rien.
Oui, ça j'imagine. Vous avez de ses nouvelles? Il est reparti
Non, j'ai plus de ses nouvelles. Je suis allé au Sri Lanka il y a quelques années, mais non, j'ai plus de ses nouvelles.
Ouais. Et parmi les rencontres, avant de parler du tantrisme, parce que j'aimerais qu'on développe un peu plus cette notion, mais parmi toutes les rencontres, durant les nombreux voyages que vous avez réalisés dans cette région, cette partie du monde, quelle a été celles ou les quelques-unes qui vous ont réellement marqué en tant qu'être humain, je veux dire, où là, vous savez, il y a des rencontres comme ça qui marquent à vie, on en sort différent, je veux dire.
J'ai eu de sortes de rencontres qui m'ont marqué. Il y a eu des rencontres avec ce qu'on peut appeler des maîtres spirituels, notamment notamment quelqu'un qu'on appelle Babaji, qui est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, ou Chandraswami, pour qui j'ai aussi énormément de respect. Ce sont des moines, des sannyas. Qui sont des gens que je trouve remarquables.
Qui est Babaji? C'est quoi un sannyas?
Sannyas, c'est-à-dire c'est des moines. Hein, c'est des moines qui ont pris le sannyas, c'est-à-dire qui sont moines. Mais alors eux, c'est si l'on veut, de la tradition de Vishnu, c'est-à-dire que ils ont une robe orange. Hein,
ouais,
donc
ouais.
Voilà, c'est plutôt ça.
Ouais.
Ce sont des êtres qui sont consacrés à la voie spirituelle. Voilà, on peut dire ça. Hein. Mmh. Ils sont complètement consacrés à la voie spirituelle. Donc, et bon, eux, ce sont des êtres particulièrement lumineux que j'ai rencontrés, qui, de toute façon, par leur simple contact, apportent quelque chose. On appelle le darshan, la présence, la baraka. Hein, c'est vraiment... Donc ça, c'est des êtres qui m'ont apporté déjà par leur présence et par ce qu'ils m'ont dit et par leur présence.
Ouais.
Et...
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ressent
une paix ou une...
Un amour profond pour vraiment des gens réellement ouverts et totalement ouverts à tout ce qui les entoure.
Oui.
C'est...
Oui, c'est tout à fait. C'est des êtres, on sent qu'ils sont déjà dans la paix. Ils sont dans la paix et ils rayonnent cette paix. Donc on se sent apaisé à leur contact déjà.
Ouais.
C'est pour ça que les hindous les respectent et les adorent, on peut dire. C'est justement parce qu'ils sont un lieu d'expression du divin. On peut exprimer ça en termes occidentaux.
Voilà, ouais.
Un lieu d'expression du divin ou de la présence.
Ouais.
Voilà. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment rencontré des êtres comme ça. C'est notamment ces deux personnes-là qui m'ont beaucoup marqué à ce niveau-là. Et puis là, lors de mon dernier voyage, là, j'ai rencontré un sadhu shivaïste aussi qui était une personne très intéressante, qui était vraiment quelqu'un d'assez jeune, hein, mais qui était vraiment une personne aussi assez remarquable, et qui d'ailleurs a deviné des tas de choses sur mon compte alors que je lui avais rien dit. C'est assez étonnant, oui. C'est quelqu'un qui vit sur les bords du Gange, il est complètement inconnu, lui. Alors là, complètement inconnu des occidentaux.
Oui. Et il vaut peut-être mieux, bords, d'ailleurs, peut-être plus tranquille.
Oui, c'est plus tranquille, effectivement. Donc, il est complètement, voilà. Mm-hmm. Ça, c'est un premier type de très belles rencontres que j'ai pu faire. Et puis, il y a des rencontres aussi qu'on peut faire en Inde ou au Sri Lanka ou ailleurs. En Orient, avec des lieux aussi. Il y a aussi des rencontres avec des lieux. Ça, c'est un deuxième type de rencontre, c'est-à-dire qu'il y a des lieux que j'ai découverts qui sont marqués sur aucun guide, en quelque sorte.
Ouais.
Et brusquement, on se sent porté. On sent vraiment quelque chose. On sent qu'il y a des rituels qui ont été faits. Il y a des et puis c'est des lieux particuliers d'une force extraordinaire, d'une présence extraordinaire. On a vraiment des lieux magiques, en quelque sorte. Ça, si on est un peu sensible, on peut rencontrer des tels lieux, justement, en Inde. Quoi, j'en ai rencontré. Vraiment dans des vieux temples, mais il faut être y aller les sens en quelque sorte ouverts, parce que c'est pas marqué sur les guides, évidemment, hein. c'est simplement en fonction de son ressenti personnel, quoi. Mais là, vraiment, il y a des choses, une force étonnante. Et puis il y a une troisième catégorie de belles rencontres que l'on peut faire aussi, c'est avec des êtres tout simples. Par exemple, je vais donner des exemples. J'étais à Rishikesh pour acheter une écharpe.
Rishikesh
est une ville au nord de Haridwar, au nord, au pied de l'Himalaya. C'est une ville qui est exactement au pied de l'Himalaya, là, une ville sacrée, parce que c'est là où le Gange, en quelque sorte, sort de l'Himalaya.
D'accord.
Et là, il y a pas mal. C'est un des seuls lieux où il y a pas mal de touristes quand même. Et puis j'étais là pour acheter une écharpe. Et puis il y avait le vendeur qui avait une trentaine d'années, 25-30 ans.
Ouais.
Et brusquement, je ne sais pas pourquoi, il commence à me parler du mystère de la vie, il commence à me poser des questions sur la voie spirituelle, tout ça. Et au bout d'un moment, il avait complètement oublié qu'il était là pour me vendre une écharpe et moi que j'étais là pour acheter une écharpe. Et puis on s'est quitté comme ça, après toute une grande discussion, sans rien acheter, sans rien vendre.
Ouais.
Et donc voilà, ça aussi c'est l'Inde. C'est-à-dire que l'Inde, c'est pas simplement les petits escrocs au coin de la rue, comme il y en a tant, il y en a beaucoup. Mais c'est aussi des êtres comme ça. Voilà, des êtres qui sont capables de placer la spiritualité au-delà de tout. Voilà, ça c'est, je trouve ça très beau. Ou alors un autre exemple, l'année dernière, j'avais acheté des livres, donc il me fallait acheter une petite valise, enfin un petit sac.
Ouais.
Je vais chez le vendeur de sacs vraiment du coin. Il me pose la question, il me dit, mais vous achetez ça, pourquoi? Alors je dis oui. Alors, non, c'est moi qui lui dis, c'est pour des livres. Voilà, il me dit, ah bon, et quel genre de livre? Alors je lui dis, le yoga vasista. Ah, c'est un très beau texte. C'est un petit peu comme si le vendeur de valises de coin,
oui.
On commençait à discuter des grands mystiques chrétiens. Exactement l'équivalent, quoi. C'est, et voilà, ça aussi c'est l'Inde.
Ouais.
Il y a ce genre de rencontres. Donc il y a les rencontres non seulement avec les maîtres spirituels, non seulement avec les lieux aussi forts, mais aussi il peut y avoir ce genre de rencontres avec des individus comme ça, anonymes, et qui sont, ouais, je trouve, très beaux intérieurement, quoi, très très beaux.
Le tantrisme, c'est une notion que vous aviez évoquée tout à l'heure lorsque vous nous avez parlé et décrit ce qu'étaient les chakras. En quoi est-ce que cela consiste? Qu'est-ce que c'est que le tantrisme?
Alors le tantrisme, c'est précisément...
Soyons clairs, je me permets de vous interrompre juste. Oui. En Europe ou en France, la seule manière dont j'en ai entendu parler ou dont certains m'en ont parlé, c'est le tantrisme égale rapport sexuel. Point.
Voilà, donc, effectivement.
J'imagine que ça n'est pas que ça, ou c'est peut-être loin d'être que ça.
C'est très loin d'être que ça.
Ouais.
Et c'est même assez peu ça.
Bon.
Mais c'est un petit peu ce qu'a saisi l'Occident, évidemment, parce que comme il y a une grande répression sexuelle en Occident, et il fallait une espèce de soupe. Donc on a découvert le tantrisme, et on a trouvé qu'ils avaient une attitude vis-à-vis du sexe. Mais en fait, le tantrisme, évidemment, c'est très accessoire.
Ouais,
très accessoire. Et en plus de ça, tout ce qui est enseigné sous forme de tantrisme sexuel, j'ai notamment un ami qui vient d'assister à un de ces séminaires de tantrisme sexuel, il me l'a décrit en détail, c'est plutôt des psychothérapies, mais ça n'a strictement rien à voir avec le tantrisme, c'est des psychothérapies de couple, en quelque sorte.
Oui.
Ou alors pour des gens qui ont des problèmes sexuels, mais
voilà.
C'est...
Donc aucun intérêt.
Du point de vue tantrique, ça n'a un intérêt, ouais, voilà. Zéro, nul.
C'est vraiment clair.
Voilà. Okay. Là, c'est nul, aucun rapport.
Alors, qu'est-ce que le tantrisme, alors?
Alors, le tantrisme est précisément une espèce de, une résurgence de ces cultes de la mer. Vous savez que tout à l'heure, j'ai dit que l'hindouisme était un peu la confluence des indo-européens,
ouais,
des rituels indo-européens, et puis de ces cultes, justement, de la mer dravidien. Or, précisément, le tantrisme, alors que la société indo-européenne était très patriarcale, la société dravidienne était une société matriarcale. Or, le tantrisme est précisément une résurgence de ces cultes de la mer, c'est-à-dire que la femme se trouve occupée la première place dans le tantrisme. Elle devient l'initiatrice, alors qu'elle est mise au second rang, en quelque sorte, dans les sociétés patriarcales indo-européennes.
Ouais.
Avec le tantrisme, elle devient l'initiatrice. Et que ce soit dans le tantrisme hindouiste ou le tantrisme bouddhiste, parce qu'il y a les deux, dont l'un est issu de l'autre, eh bien la femme devient, sous forme d'une dakini ou sous forme d'un grand gourou, d'un grand maître, la femme devient toujours d'une extrême importance. C'est elle qui est au centre, qui est au cœur du tantrisme. Je veux dire que c'est une des notions plus fondamentales, justement, du tantrisme.
Ouais.
C'est cette importance de la femme, de la mère, ce culte de la mère, ce culte de la femme. Voilà, parce que justement, c'est une résurgence de ces cultes dravidiens. Voilà, là donc ça c'est très clair. Maintenant, le tantrisme possède beaucoup de particularités. Hein. C'est vraiment, c'est notamment très ritualisé, très souvent. Les rituels ont beaucoup d'importance, les dieux ont beaucoup d'importance, on a des exercices qui sont extrêmement complexes, des exercices de visualisation, des exercices de méditation qui sont complexes. Qui sont pratiqués justement par les tantriques. Il y a effectivement l'idée de transformer les poisons en nectar. C'est-à-dire que le tantrisme a tendance à utiliser tout ce que l'on considère dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme comme des poisons. Que ce soit justement la viande, l'alcool, la drogue, le sexe, justement, qui sont utilisés justement comme force, comme on appelle ça chevaucher le tigre en quelque sorte.
Oui.
On chevauche le tigre.
Danser avec le diable.
On danse avec le diable.
On chevauche le cul du tigre.
Exactement. Comme donc on utilise cette énergie-là, on utilise cette énergie-là justement pour arriver à la réalisation spirituelle. On utilise en quelque sorte l'énergie de ce que l'on peut appeler les forces négatives, justement, mais pour les rendre positives.
C'est un peu transformer le plomb en or.
C'est très très alchimique. C'est très alchimique, et c'est pour ça qu'on dit que les grands tantriques justement sont capables d'absorber un poison et justement de pas être affectés par ce poison, parce que justement ils ont cette capacité de transmutation. Et cette capacité de transmutation, cette capacité-là est fondamentale dans le tantrisme. Ça, c'est une autre notion très importante dans le tantrisme.
Ouais.
D'où, justement, effectivement, l'utilisation de la sexualité. Mais cette utilisation de la sexualité ne se fait pas comme les Occidentaux l'ont compris à travers Rajneesh ou à travers Osho Rajneesh, enfin, etc. C'est quelqu'un qui a vulgarisé un petit peu le tantrisme en Inde, mais justement plutôt à travers des psychothérapies.
Ouais, alors que c'est pas
ça du tout. C'était justement des jeunes filles très particulières qui étaient justement consacrées uniquement pour les asceltes, c'est-à-dire que c'était d'un côté il y avait les sadhus. Encore actuellement, il y a notamment certains sadhus qui ont des jeunes filles qui leur sont consacrées justement pour pratiquer ces rites-là. Et c'est des jeunes filles qui ont certaines particularités physiques très précises et qui sont initiées depuis très jeunes par justement des femmes plus âgées qui sont elles aussi passées par là et qui les initient justement à ce genre de rituel-là pour permettre justement à ces sadhus, à ces ascètes d'atteindre l'illumination. C'est-à-dire que le but n'est pas du tout le plaisir sexuel, mais c'est justement d'utiliser cette énergie sexuelle pour, en quelque sorte, amener cette rupture de conscience et ce basculement, en quelque sorte, dans l'illumination. C'est ça le but, en quelque sorte, de ces pratiques-là.
Voilà. C'est quand même très étonnant et c'est éloigné de nous dans le sens où, j'imagine, une féministe qui est en train de vous écouter, là, elle vient de mettre un coup de batte de baseball sur le transistor ou un coup de hache sur le transistor. C'est vrai que c'est tellement éloigné de nous, mais c'est tellement différent de nous également.
C'est très différent, mais c'est pas non plus, faut pas s'imaginer que c'est, c'est anti-féministe, non, je pense que ça a aucun rapport, c'est ni féministe ni anti-féministe, puisque tout ça c'est, je veux dire que c'est simplement une civilisation différente. On a des valeurs qu'on voudrait imposer à tout le monde, mais il faudrait peut-être comprendre que il y a pas de valeurs universelles, très peu, il y a des valeurs universelles. Très très peu de valeurs universelles, c'est vraiment et que justement c'était des civils. Il faut être capable, je veux dire, suffisamment d'ouverture d'esprit pour être capable, justement c'est à ça que servent les voyages, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit qui permet de comprendre qu'il y a d'autres fonctionnements possibles. Et que justement ça c'est un autre fonctionnement possible.
Pour en venir donc au tantrisme, est-ce que c'est une religion particulière, précise, où ça fait partie de l'hindouisme et c'est un des cultes, une des voies possibles? C'est ça que j'essaie de comprendre.
Oui, alors là, c'est très difficile.
Les catholiques, c'est simple. Il y a la naissance, le baptême, la communion, etc. Bon, c'est tout droit, c'est simple, c'est facile. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est pratique. Bon, là, c'est quand même...
Ah oui, là, c'est effectivement, c'est très compliqué.
c'est vrai,
c'est multiplicité, quoi. Et on peut pas répondre vraiment à cette question-là parce que d'un côté, le tantrisme imprègne complètement l'hindouisme, et d'un autre côté, c'est quand même une voie particulière. C'est-à-dire que les tantriques ont toute une lecture, par exemple, de la géographie qui est très particulière. Par exemple, ils considèrent que l'Inde, c'est le corps de la déesse. Voilà, donc il y a différentes régions de l'Inde qui correspondent à différentes régions, différentes parties de la déesse.
C'est-à-dire la hanche, c'est-à-dire l'épaule, le sein, le sexe,
d'accord.
Etc.
Donc ils font des rituels particuliers à toutes ces parties-là, parce qu'ils correspondent exactement comme le Gange est considéré comme la Kundalini, c'est-à-dire cette énergie que l'on a précisément dans la colonne vertébrale.
Ouais.
Et les différentes villes sont considérées, justement, les villes importantes sont considérées comme des chakras. Par exemple, Bénarès est considéré comme l'équivalent, c'est le chakra du cœur. Haridwar, c'est le chakra de la gorge. Deva Prayat, c'est l'Ashna chakra, le chakra du troisième œil, par exemple, le Gange se forme, etc. Voilà tout. Il y a une lecture, notamment de la géographie, qui est complètement différente, par exemple. C'est pour montrer justement que une civilisation peut être complètement différente. Voilà. Et qu'on peut vivre dans un monde justement qui est complètement différent. Et notamment, c'est le monde du tantrisme. Le monde du tantrisme, c'est un monde qui est radicalement différent de notre monde matérialiste dans lequel on vit.
Bien. Et est-ce qu'il y a une hiérarchie dans ce culte-là, avec des prêtresses, avec des saints, etc. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, alors c'est assez... il y a effectivement une hiérarchie. Alors c'est toujours très provocateur. C'est-à-dire que le tantrisme est aussi... C'est une autre particularité. Il est très très provocateur, comme le sont les shivaïstes. Quand on lit les histoires tantriques, les initiations justement tantriques, c'est toujours plein d'histoires effarantes, quoi. C'est assez étonnant. C'est assez vraiment... Il y a beaucoup de magie aussi dans le tantrisme. Ça, c'est clair. Ouais. Mais non, un tantrisme pourrait satisfaire justement les féministes, puisque la femme, et justement c'est assez étonnant parce que le bouddhisme soit devenu le bouddhisme tantrique, notamment le bouddhisme tibétain, c'est le bouddhisme tantrique, c'est très curieux, notamment quand on étudie les origines du bouddhisme tantrique en Inde, parce que c'est une inversion du bouddhisme. Le bouddhiste, par exemple, le bouddha se méfiait des femmes, par exemple, il considérait ça principalement comme...
Ah bon?
Ah, il se méfiait énormément des femmes. Il voulait pas créer d'ordre de nonnes, par exemple, et c'est simplement Ananda, son disciple Ananda, qui a énormément insisté. Et il a fini par céder, mais il a dit le Sangha, c'est-à-dire la communauté des moines, rentrera en décadence bien avant à cause du fait qu'il y ait des nonnes. Donc il était très misogyne.
Bouddha était misogyne, ah bon ?
Il était très misogyne. Mais alors par contre, il était misogyne, il se méfiait des rituels, les rituels étaient considérés comme un obstacle.
Ça encore, pourquoi pas, après tout.
Voilà, etc. Enfin, il y avait vraiment pas de magie, enfin, etc. Mm-hmm. Et le bouddhisme tantrique, ça a été vraiment une inversion du bouddhisme originel. C'est-à-dire que brusquement, la femme qui était reléguée au second plan, oui. Parce que attention, dans le sangha, dans la communauté des moines bouddhistes, le plus petit des moines masculins a autorité sur le plus élevé des femmes nonnes, des nonnes bouddhistes.
C'est pas terrible, ça.
Hein, voilà. Ouais. Et brusquement, dans le bouddhisme tantrique, la femme se retrouve au premier plan. C'est elle, au contraire, qui donne la connaissance. C'est elle qui initie l'homme. Ouais. C'est-à-dire que l'homme ne peut être initié que s'il rencontre justement une femme, une sainte, une femme qui est dans la sagesse et qui l'initie. Ouais. Voilà. Ouais, donc déjà, c'est une inversion totale. Notamment la grande importance des rituels aussi. Ça aussi, c'était complètement étranger au bouddhisme originel.
Ouais.
Etc. Il y a eu comme une espèce d'inversion qui s'est faite du bouddhisme, qui est très étonnant, tout en gardant certains points quand même importants du bouddhisme Mahayana. Donc, c'est assez étonnant cette espèce de mélange qui s'est produit en Inde à cette époque-là. Quoi.
Éric Sablé, une dernière pause et on va se retrouver pour malheureusement la conclusion. Je n'ai pas vu ces 7h15 un peu plus qu'on vient de passer ensemble passer. Et vous posez une question parce que vous nous avez cité de ci, de là, quelques références comme ça sans vraiment vous appuyer dessus. Une rencontre avec un sadhu dont vous avez dit qu'il avait découvert beaucoup de choses sur vous. Là, vous venez de souligner dans le culte tantrique l'emploi de la magie. Certaines choses comme ça qui font penser à ce que l'on appelle dans le monde occidental les phénomènes paranormaux. Alors, je suppose qu'il y a une vision totalement différente en Inde et chez les hindouistes de ce que nous on appelle un phénomène paranormal et que peut-être pour eux, bah, c'est juste quelque chose de tout à fait normal, justement. Nous y reviendrons dans quelques instants.
Sud Radio. Louis Bénédit. Les aventuriers de l'étrange.
Dernière ligne droite avec mon invité Éric Sablé. Vous nous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure avant de faire cette pause, vous avez évoqué comme ça quelques phénomènes que vous avez vécu vous-même. Ce que l'on appelle ici en Europe, en France en particulier, les phénomènes paranormaux. Dons de voyance, dons de guérison par la position des mains. Vous voyez, tous ces genres de phénomènes dont la science essaye de s'interroger, d'étudier, que certains scientifiques rejettent complètement. Là-bas, en Inde, je suppose que ce n'est même pas considéré comme des phénomènes paranormaux.
C'est-à-dire que l'Inde contemporaine finalement a un peu la même attitude que l'Occident vis-à-vis des phénomènes paranormaux, mais sinon il y a toute une part effectivement de l'Inde qui est restée un peu traditionnelle, on peut dire, qui effectivement a tout à fait un autre regard sur ce que l'on appelle les phénomènes paranormaux.
Mais dans le corpus de leur religion, c'est admis, je veux dire, dans la religion catholique ou chrétienne, la voyance est absolument bannie, ou alors c'est un effet d'un saint sous l'influence divine, point barre. Voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. Tandis que, visiblement, d'après ce que j'ai compris, c'est je dirais presque le symptôme d'une évolution. C'est le signal d'une évolution spirituelle élevée.
Pas forcément, parce que c'est en quelque sorte non. Alors là, la réponse est un peu difficile, mais déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'ils admettent très bien tous ces phénomènes-là à la base. L'hindouisme admet très bien tous ces phénomènes-là, puisqu'ils considèrent le monde comme une maya, comme une illusion. Donc on change simplement d'illusion, c'est-à-dire que l'on peut très bien faire que là, il y a un palais qui apparaisse brusquement dans le jardin en face, parce que précisément tout est de l'imagination cristalline. cristallisée. Donc, comme c'est de l'imagination cristallisée, tout est possible. Déjà, il y a un rapport avec ces phénomènes-là qui sont très différents. Ils ne partent pas, traditionnellement, ils ne partent pas. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'histoire non plus, qu'ils ont simplement des mythes, des légendes. Ils n'ont pas d'histoire au sens où nous l'entendons. Parce que justement, ils ne partent pas d'une base sensible comme nous, d'un monde sensible fixe. C'est-à-dire que tout est susceptible justement de se modifier, de se changer, puisque tout peut être le voile de Mamaya, on peut très bien agir sur lui. Voilà, le yogi en quelque sorte a le même pouvoir que le dieu créateur. Voilà, donc le yogi a tout pouvoir. D'où tous ces phénomènes paranormaux que décrit notamment le Yoga Sutra, extraordinaire. Parce que justement, tout est possible. Dans la mesure où tout est maya, où tout est illusion, le yogi qui justement est au-delà de l'illusion a donc tout pouvoir sur le monde.
Oui. Voilà. C'est ce que vous développez dans votre livre qui s'intitule « L'univers est un rêve ».
Oui, voilà. Oui, tout à fait. C'est c'est un livre sur la Maya, sur l'illusion, mais pas simplement en Orient, aussi en Occident, sur toutes les, toutes ces notions qui tous ces êtres qui ont considéré, même en Occident aussi, hein, qui ont considéré que l'univers était un rêve, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réalité sensible comme au sens où on l'entend, mais que le monde, en quelque sorte, l'univers était de la nature du rêve, mais un rêve cristallisé en quelque sorte.
Oui. Voilà. Là, on commence à manipuler des notions abstraites qui deviennent assez compliquées au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est effectivement très très intéressant. Est-ce qu'on peut rapprocher ça de des religions, des croyances des aborigènes?
Oui, tout à fait.
Australiens.
Tout à fait. Ils considéraient
que
le rêve,
la vraie vie est le rêve en fait, quoi.
Voilà, c'est ça qu'à l'origine il y avait le rêve, tout ça.
Oui, bien sûr.
Ça, on peut tout à fait rapprocher les croyances des aborigènes australiens avec ces notions de Maya, avec des nuances évidemment. C'est pas il y a des nuances qui sont différentes, ça c'est clair. Mais à la base, il y a cette même idée en quelque sorte, cette même idée que l'on ne vit pas dans un monde, un univers fixe, matériel, pesant en quelque sorte. D'où ce côté un petit peu pesant de l'Occident. Alors que justement, cette notion de Maya permet le jeu, permet justement la légèreté, puisque le monde, c'est une illusion. Il pourrait y avoir une autre illusion. Il y a cette illusion là. Donc forcément, ça permet une espèce de légèreté. On peut ne pas prendre le monde au sérieux. Voilà. Alors que nous, vivons dans un monde sensible, unique, en quelque sorte, unique, forcément, c'est grave. On vit dans un monde qui est grave. Quoi, voilà.
Donc, leur rapport à la mort est complètement différent, j'imagine.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que...
Ça change tout.
Comme dit un sadhu à qui j'ai parlé, ils en font pas tant d'histoires. Je veux dire, c'est un sadhu français qui vit là-bas depuis 1951, en Inde depuis 1951.
Ah oui.
Et c'est un vieux monsieur qui est assez extraordinaire. Et j'ai eu quelques conversations avec lui, et puis il m'a dit, notamment une conversation, il me dit, oui, il y a des bûchers funéraires là, partout, et puis oh, la mort, ils n'en font pas tant d'histoires. Voilà, c'est tout à fait un autre rapport à la mort, vraiment, c'est complètement différent. Déjà parce qu'il y a cette croyance sous-jacente à la réincarnation, et puis aussi parce que justement il y a cette conception générale, cette vision générale de l'univers qui n'est... justement, qui n'est pas grave et qui n'est pas pesante, qui n'est pas lourde en quelque sorte.
Ouais. Voilà. Pour conclure, durant vos rencontres, différentes rencontres comme ça, comment vous appréhendent-ils, vous êtes blanc, occidental, vous allez dans des coins où parfois il ne doit pas y en avoir beaucoup, des Européens, je veux dire, alors comment est-ce que ils vous reçoivent?
En général, par exemple, les sadhus avec qui j'ai parlé, ils étaient très touchés qu'il y ait justement un occidental qui s'intéresse à leur, disons, à leur
spiritualité. Qui échange avec eux.
Ils étaient très touchés. Donc, ils parlent très facilement à cause de ça. Bon, si tant est que, justement, on puisse passer à travers la barrière de la langue, puisqu'ils parlent souvent, ils parlent très très peu anglais. Donc, les sadhus shivaïs, par exemple.
Hein. Ouais.
Mais sinon, beaucoup sont touchés par le fait que justement on s'intéresse à leur spiritualité. Et si on porte un mala autour du cou, aussitôt ils vous interrogent. Ils ont l'impression que malgré, parce qu'ils ont un peu une vision de l'Occident comme omnipotent, omniscient, une espèce de peuple d'Occident conquérant, et de voir justement des Occidentaux qui viennent et puis qui se mettent au pied de leur sadhu, au pied de leur maître, de leur sage. Pour eux, ça les touche parce que forcément, ils ont l'impression que eux, ils apportent quelque chose, quoi, qu'ils sont, et puis que les Occidentaux aussi, ça les surprend, aussi que les Occidentaux ne soient pas justement que des êtres conquérants et arrogants en quelque sorte.
Voilà, oui,
c'est un petit peu, pour eux c'est important aussi ça. Mm-hmm. Jusqu'à présent, j'ai toujours rencontré une grande écoute et une grande sympathie de la part des gens avec qui j'ai pu converser. Mmh. Voilà, ça c'est assez général. Par contre, évidemment, les chauffeurs de rickshaw, etc., ça c'est autre chose, mais c'est un autre peuple. Mais là, je parle des gens qui sont dans la spiritualité.
Oui, tout à fait.
Hein, la spiritualité.
Avec qui vous c'est un peu peut-être curieux de ma part, mais vous nous avez dit à plusieurs reprises lors de cet entretien, on a échangé sur la spiritualité. Quoi? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a posé comme question? Tiens, tu es quoi, toi, catholique, bouddhiste, musulman? Enfin, je sais pas. Vous voyez,
on parle de choses très techniques, c'est-à-dire que exemple, oui, bien sûr, très très technique. C'est par exemple, des mantras qui sont les paroles de pouvoir, les paroles magiques, qui récitent et qui sont aussi bien utilisées pour la voie spirituelle que pour justement l'Inde croit beaucoup aux mantras, les hindous croient beaucoup aux mantras, au pouvoir justement de ces paroles magiques en quelque sorte, aussi bien pour la recherche spirituelle. Donc de ces noms. Donc par exemple, oui, ils attachent beaucoup d'importance. Alors il y en a un qui m'a noté sur un bout de papier les mantras importants qu'il faut que je récite à telle période, etc., pour m'aider. Ouais. Comment il fallait le réciter, etc. Et puis il m'a expliqué que, je sais pas, par exemple, que tout était mantra, que le Gange aussi, un mantra, c'est-à-dire qu'il a sa vibration particulière, sa vibration magique particulière, que les nuages, il y avait le mantra du soleil, le mantra du Gange, le mantra des arbres, le mantra de l'herbe, le mantra de la terre, etc., etc. Le mantra de Shiva.
Chaque chose ici-bas a un nom, en fait.
Exactement. Voilà, exactement. Chaque chose a un nom secret. Ouais. Et ce nom secret, c'est le mantra qui s'en rapproche le plus. C'est-à-dire, c'est la vibration, là, de la chose. Ouais. Voilà, la vibration.
C'est
la
pas Adam qui a donné un nom à chaque chose?
Oui, effectivement, y a un rapprochement à faire qui est assez intéressant, effectivement. Ouais. Oui, tout à fait.
Ça fera l'objet d'une autre émission beaucoup plus tard. Merci beaucoup, en tout cas, Éric Sablé. Franchement, j'ai passé 2 heures extraordinaires en votre compagnie. Et puis, j'invite, c'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation. J'invite ceux et celles qui veulent en savoir plus sur vos ouvrages à consulter le site des Aventuriers de l'Étrange, psylande.org, où là, ils vont retrouver toute votre bibliographie, comme ça il n'y a aucun souci, ils pourront se procurer vos livres. Un livre qui est en construction, en fabrication actuellement, parce que vous êtes tout le temps en train d'écrire.
Le dernier que j'ai fait, c'est sur les Yoga Sutras, précisément les premiers commentaires indiens des Yoga Sutras, c'est-à-dire les commentaires de Vyasa, de Vakaspati Misra et de Boja. Voilà, c'est un petit peu que j'ai essayé de rendre un peu lisible et clair.
Aux éditions Dervy, j'imagine.
Ça passera aux éditions Dervy, voilà. Oui, bon, c'est sur les Yoga Sutras.
Et puis on vous retrouvera en tant que auteur pour venir signer vos ouvrages, évidemment, et en tant que conférencier au Salon du Livre Ésotérique et Philosophique à Condom, les 23 et 24 juin.
Oui.
Merci, bonne fin de soirée.
Merci.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h, minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Je vous souhaite une excellente nuit. Dans quelques minutes, la rediffusion des émissions de la journée sur Sud Radio. Quant à nous, eh bien, on va avoir un programme un petit peu chamboulé ces prochaines semaines, puisque vous le savez, nous nous acheminons à grands pas vers des élections législatives. Donc, ce qui fait que les dimanches 10 et dimanche 17 juin, il n'y aura pas d'émission des Aventuriers de l'Étrange. Mais heureusement, on se retrouvera samedi prochain, uniquement à partir de 23h. Je vous le dis, là, c'est vraiment chamboulé. Donc bon, samedi prochain, prochain à partir de 23h pour une heure d'émission consacrée au crop circle. Vous savez, ces formes bizarres qui apparaissent dans les champs de céréales, quelquefois en France, un petit peu partout dans le monde. Nous aurons un spécialiste avec nous dans les aventuriers de l'étrange qui viendra nous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Et dimanche, pas d'émission pour cause d'élections législatives. Pour tout savoir sur Éric Sablé, toute sa bibliographie, psylande.org, et pour tout savoir sur le salon du livre ésotérique et philosophique où il sera présent, c'est le 23 et 24 juin à Condon, direction un site internet Salon Libère, L-I-B-E-R, Salon Libère en un seul mot, salonlibère.org. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Pierre Massias qui m'aide à la construire, Morad qui était au standard. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute des programmes de Sud Radio et à samedi prochain.